Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Popcorn pour un épisode spécial où on revient sur nos films préférés de l'année. On a enregistré un autre épisode sur les films qu'on a le plus détestés, mais du coup il sortira dans quelques jours sûrement. Ici, dans cet épisode, rien que de l'amour et de la joie pour les films dont on va parler. Je suis donc avec tous les chroniqueurs et chroniqueuses de Popcorn. Grâce à un merveilleux tableau Excel, on a réussi à mettre ensemble les tops de tous les chroniqueurs pour vous faire un super top 10 qu'on va égrener sous vos oreilles ébahies. Et on commence tout de suite.
Et comme Popcorn est une émission très spéciale, il n'y aura pas 10 films dans ce top 10, mais 11. En effet, 2 sont arrivés à égalité à la 10e place. On commencera donc par ce film qui est également arrivé dans les flops. On vous spoil un peu la semaine prochaine. C'est Babylone, et ça va être Valentine qui va nous en parler en première.
Bonsoir d'abord. Alors Babylone, moi c'est un film que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était un film qui faisait ce que beaucoup de films font en ce moment, c'est-à-dire prendre plein d'argent. Donc là c'est en l'occurrence prendre plein de temps et prendre plein de personnages. Pour faire un film, voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé qu'il réussissait ces trois paris, c'est-à-dire que tous les personnages sont attachants, ont des arcs intéressants, sont selon moi reliés par des liens qui sont pas binaires et qui sont toujours intéressants à observer. L'argent qui est dédié à la production, au décor, au costume, est très bien utilisé parce que moi je trouve ça magnifique. Et le temps qui est imparti au réalisateur pour nous raconter son histoire est également très bien utilisé parce que moi je trouve que l'économie de la narration et du film, j'ai à peu près rien à redire. Je me suis absolument pas ennuyée devant ce film. Et pour couronner le tout, je trouve qu'il y a une BO qui est exceptionnelle et que je réécoute, que j'ai réécouté beaucoup de fois après avoir vu le film, ce qui est assez rare, je trouve. Surtout quand c'est des bandes originales. Voilà, pour moi, donc c'est un sans faux. Je l'ai mis en top 1. Je sais que je me suis fait insulter par plein de gens ici parce que vous êtes tous des... je précise que j'ai voulu faire bip, mais je suis enrouée. Du coup, ça a fait des trucs bizarres. Mais du coup, Paul refait le bip. Merci Paul, voilà, je voulais juste dire que je défendrai ce film jusqu'au bout, et je trouve que...
Le bout est arrivé
Dakodak.
Pauline, je crois que c'était aussi dans ton top cette année.
Oui, du coup, c'est vrai que, contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé que c'était un film qui était d'une extrême cohérence entre le propos qui était tenu et du coup la mise en scène. Dans le sens, c'est vrai que ça nous montre une époque, donc les années 20, qui sont merveilleusement chaotiques et assez troublantes. Et je trouve que le film vient proposer une virtuosité de mise en scène qui est assez intéressante et qui vient souligner ce propos-là. Au niveau du casting, forcément, c'était très, très bon. Au niveau de la musique, Justin Hurwitz, tu le soulignais très bien, c'est quand même toujours excellent. Bah, ça reste du Damien Chazelle. Enfin, il est sur littéralement son cinéma, quoi. Et c'est toujours méta cinématographique et je suis assez cliente de ce genre de film. Donc, je pense aussi que ça joue. Après, plus j'y pense, plus je me dis que potentiellement ça aurait été encore mieux s'il en avait fait une série. En fait, je trouve que il y a plusieurs épisodes dans ce film qui auraient vraiment pu se prêter à la série, et ça aurait peut-être été plus intéressant encore d'avoir des actes narratifs qui se mélangent, enfin qui se séparent un peu, bien que du coup ça aurait perdu ce côté chaotique qui était intéressant à la base aussi et qui nous tient en haleine pendant littéralement 3 heures. Donc je trouve que ça, rien que pour ce pari là, c'est assez tenu pour moi.
Mais est-ce que tu avais vu la série qu'avait fait Damien Chazelle?
Oui, aussi.
Et ça t'avait plu? Donc tu l'as vu? Moins? Ouais, c'était vraiment merdique. Voilà.
Ouais, la série, j'avais moins aimé, j'avais moins accroché.
Non, moi je suis pas d'accord, ça aurait pas pu être une série parce que justement le flow de musique dans lequel on est entraîné et le fait que ce soit aussi bon musicalement et que ce soit vraiment réglé comme un... Je vais commencer à parler musique, vous voulez pas entendre ça, mais comme une partition. Ça fait qu'on est entraîné dans le rythme du début à la fin sur les 3 heures, et je pense que si ça avait été une série, ça aurait été vraiment dommage, quoi.
Mais en série, il n'y avait pas une qui m'aurait en fait fait penser à ce film. C'était Hollywood qui avait été showrunné par Ryan Murphy,
c'est
qui était nul. J'avais vraiment pas aimé. Mais moi, ça m'avait fait penser à... Pour le coup, je me suis dit, en série, ça aurait eu cette gueule-là, en fait.
Ouais, mais je pense que ça aurait été mieux du coup, enfin globalement. Après, tu te dis, quand, si on met tous les films qui parlent de cette époque actuellement à la suite, ça fait limite une série, je pense, entre manque, enfin il y a plein de trucs des années 20. Non, non, mais après, voilà, c'est vrai que ça reste un film qui était pour moi vraiment qui m'a happé. Je pense qu'au niveau émotionnel et sensoriel, j'en ai eu pour ma dose et c'est ce que je recherche aussi. Donc, je pense que j'étais assez cliente et que j'ai été régalée, quoi. Voilà.
Mais ben, merci beaucoup Valentine et Pauline pour cette analyse. Et puis si vous voulez entendre plutôt des haters sur ce film, je vous enjoins à écouter l'épisode de Flop où on risque de faire preuve de beaucoup plus de mauvaise foi sur Babylone.
Et le 10e à égalité du coup avec Babylone est un film beaucoup moins gargantuesque et ambitieux, mais tout, enfin, mais bien plus mignon et d'ailleurs bien mieux à mon humble avis. Mais je laisse d'abord Juliette en parler. Marcel Zeuchel de Dean Fleischer Camp.
Oui, alors moi, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à dire sur ce film, si ce n'est que c'est le Mimi fait film. Enfin, vraiment, c'est en fait, pour vous parler un peu de la forme, c'est un faux documentaire qui a été fait, du coup, en stop motion. Déjà, techniquement, c'est très, très abouti. En fait, du coup, on imagine, enfin, le réalisateur se met en scène, imaginant la vie d'un petit coquillage qui habite dans sa maison et qui a une vie avec toute sa communauté de petits coquillages. Ce petit coquillage s'appelle donc Marcel et donc il va interagir avec lui. Marcel va même devenir une star de l'internet en fait parce que Marcel a perdu sa famille. Mais c'est vrai!
Vous êtes hyper méchant!
Voilà, donc là, les autres rigolent, mais en fait, Marcel se retrouve tout seul avec sa grand-mère parce que toute sa famille a été emportée pendant la dispute de couple du coup, Dean Fleischer-Com qui s'est séparé et sa copine est partie. Bref, du coup, techniquement, ce film est super abouti parce que ce petit coquillage lui est créé en stop motion. Donc en fait, c'est hyper dur de faire interagir le réel, enfin, filmé en caméra normale avec ce truc en stop motion. C'est hyper abouti et scénaristiquement c'est juste hyper mignon, doux, on rit, on pleure, enfin je sais pas, c'est juste une petite bulle de douceur, je dirais, qui moi m'avait vraiment conquise. Et je sais pas si toi Arthur, je pense que c'est la même chose.
Alors moi c'était mon top 1 de l'année. Alors faut savoir que mes tops, moi je les mets au larmomètre et j'avais mis il y a 2 ans pour l'émission d'il y a 2 ans, j'avais mis Le Peuple Loup devant West Side Story. J'avais mis Le Peuple Loup, j'avais déjà mis un film pour un enfant et j'ai encore récidivé parce que Marcel Zeuchel, c'est le film le plus mignon que j'ai vu cette année, qui m'a fait le plus pleurer. C'est le film, je vais pas revenir sur ce que t'as dit Juliette, c'est en effet extrêmement bien réalisé, extrêmement bien écrit. C'est le film qui est évidemment le plus mignon, puis qui charrie des choses qui sont extrêmement larges, qui va du plus petit coquillage, le plus petit être existant, jusqu'à quelque chose de quasi universel. Moi c'est un film qui m'a beaucoup plu et c'est vraiment ce type de film où je me dis je pourrais le montrer à n'importe qui, que ce soit mon plus petit cousin, à mes grands-parents. C'est un film qui peut plaire, je pense, à tout le monde, et je déteste dire c'est un film pour les grands et les petits, mais c'est vraiment ça. Et malgré tout, c'est ce que j'aime bien dans ce film là c'est le film le plus universel que j'ai vu de l'année. Et du coup, pour terminer, voilà, je pense que c'est un film qui, pour moi, a la valeur la plus universelle, et c'est ce que je retiens toujours. J'essaie toujours, moi, dans mes tops des films, quand je l'ai fait pour Popcorn, de faire le film qui peut être montré le plus de monde possible, et je pense que Marcel obtient de très très loin cette palme-là. Et du coup, je passe à le 9e, celui, on rentre là dans le top 10 pour de bon, le 9e film qui, bon, peut-être pas fait pour les plus petits, puisque c'est le film qui arrivait d'ailleurs premier pour Lena. C'était ton film préféré de l'année. C'est le retour d'un cinéaste britannique qui fait moult débat à chaque fois qu'il sort un film. Oppenheimer de Christopher Nolan.
Du coup, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très simple, c'est-à-dire que je vois Cillian Murphy, je clique. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée devant Oppenheimer et clairement, plus que l'histoire en soi, moi, ce qui m'a le plus transportée dans Oppenheimer, c'est clairement toute la création sonore, en fait, toute la bande sonore que j'ai trouvée incroyable, que j'ai continué à écouter pour réviser mes partiels pendant le semestre dernier. Donc, il faut savoir que moi, étant très sensible à la musique, ça, c'est... Mon avis est clairement biaisé. Je n'ai pas forcément de commentaires constructifs à faire sur la construction narrative, sur le jeu, sur le décor, les costumes, mais vraiment, je trouve que là, on est face à un film où la bande sonore, en fait, apporte énormément, particulièrement quand elle est mêlée à ces scènes d'explosion qui sont visuellement très saisissantes et même voire assez contemplatives parce qu'on est en fait face à la beauté de la destruction. Et c'est en ce sens-là que moi, j'ai énormément apprécié Oppenheimer Et moi, je n'ai pas vu passer les 3 heures, très clairement. Je n'ai pas vu passer les 3 heures. Je suis sortie de là en me disant « Le monde, c'est de la merde, on va tous crever. » Et je pense que c'était le message qu'essayait de faire passer le film. Et pour moi, dans les sorties 2023... Bah moi, j'ai trouvé que c'était une réussite et que c'était pas juste bien parce que Barbenheimer, parce qu'on en a tous te parlé. Et je trouve que c'est, comme tu disais, accessible.
Alors, pendant que Paul découpe les pizzas et s'apprête à découper le film après, je vais laisser la parole à Pauline, puisque toi, c'était ton 3e film préféré de l'année.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai que... c'est un film auquel je pense encore actuellement, hein, pour le coup. Je trouve que c'est une des meilleures œuvres de Nolan globalement, parce que notamment au niveau de l'écriture de son scénario, que j'ai trouvé mais ultra cohérente avec le sujet, encore une fois. Enfin, je suis toujours dans cette grille de lecture de cohérence entre les images et le fond. Et du coup, il fait son film d'une manière narrative qui est ultra originale selon un accélérateur à particules. Et ça, j'ai trouvé ça fou parce que vraiment, on est sur 3 temporalités différentes avec l'introduction du noir et blanc qui n'est pas du tout une réflexion sur le temps du tout. Enfin, c'est pas un flashback ni rien, mais c'est vraiment sur un personnage. En fait, il découpe son film de manière assez ambiguë et bizarre. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial au niveau de la construction et de ce qu'il propose visuellement. Et en plus, je trouve que c'est une belle réflexion sur, du coup, les questions d'éthique et des questions morales entre la découverte scientifique et la question d'ego lorsqu'on est scientifique sur ce sujet-là. C'est un film qui est aussi entre le biopic, entre le film historique, entre le film de procès, le film de fiction aussi, limite, avec le centre du film qui est assez impressionnant. Et je trouve que c'est assez passionnant, c'est une œuvre complète qui du coup nous tient en haleine encore une fois pendant 3 heures, alors que c'est pas si simple. Et architecturalement parlant, j'ai trouvé ça très très solide, et peu de réalisateurs aujourd'hui arrivent à faire des scénarios aussi alambiqués et compréhensibles en même temps.
Ouais, non, c'est de la merde. D'accord. Merci Juliette. Au-delà de tout ça, non, je comprends l'idée, mais moi vraiment je me rappelle de cette espèce d'étrange fait divers qui avait circulé sur l'internet à l'époque sur la taille des bobines du film. Et vraiment, en sortant, on a l'impression qu'on nous a assommé avec, enfin, quelqu'un a pris les 20 km de bobines et nous a juste frappé brutalement avec ça sur le coin du crâne, et peut-être nous a juste lancé avec une espèce d'information sur le fait que Robert Downey Jr. pourrait être maléfique. Non, c'est un film qui est pas très impressionnant, soyons honnêtes. C'est un film qui est pas très impressionnant, qui est trop long, qui est d'une indulgence folle, qui se pense très intelligent alors que le sujet principal c'est inventer la bombe atomique, était-ce une mauvaise idée, point d'interrogation. Ces 10 réflexions vous étonneront. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un niveau topito de réflexion sur le sujet, accompagné avec une mise en scène qui est souvent franchement lourde. Et autant j'ai beaucoup de respect pour Nolan, parce que autant je pense que c'est un mec qui sait pas écrire pour un sou, autant je pense que quand il veut faire des scènes d'action, il se démerde. Et j'ai un très bon souvenir de Tenet, qui je pense est son meilleur film. Tenet, qui donc est son meilleur film, parce que Tenet, en fait, contrairement à Oppenheimer, c'est un film qui assume sa bêtise crasse et qui au moins nous offre quelques scènes intenses. Alors là, franchement, oui, on a Cillian Murphy qui est très triste d'avoir lancé une bombe atomique, et je n'oserais pas vous spoiler la scène finale. Je ne vous oserais pas vous spoiler la scène finale, qui est une honte absolue, mais franchement, c'est pas très convaincant.
Non, mais c'est bon, j'ai rien à répondre. Enfin, là, à ce stade, il a aimé Tenet, si tu veux, donc. Non, mais je trouve ça, c'est facile de démonter, mais je sais pas. Je trouve que tu démontes de manière facile un personnage qui, justement, il est de marbre, Cillian Murphy. Enfin, il sait même pas ce qu'il fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on nous met. On nous met dans une situation émotionnelle en nous saturant pendant 3 heures, qui nous met dans une situation émotionnelle dans laquelle le personnage est. On en perd vraiment la visée de ce qu'il est en train de faire. Enfin, on sait même plus qu'il est en train de faire une bombe. On est complètement en dehors de la société pendant la moitié du film. Enfin, genre, franchement.
On est content quand la bombe explose. On est en mode yes, ils ont réussi. Voilà.
Enfin, on voit ça comme un succès, alors que.
C'est pas sur la morale de la bombe, parce que ça, comme tu disais, c'est topito, 3 francs 6 sous. C'est comme tu disais, toi, Pauline.
On est sur un film à expérience pour moi. On est sur la mise. On est dans un putain d'accélérateur à particules. Basta.
Moi, je trouve que l'expérience, c'est pas tip-top.
On passe maintenant au 8e long métrage de cette sélection, enfin celui qui est arrivé 8e de notre top global, et je vais tout de suite laisser la parole à Jeanne. Jeanne, c'était ton 5e film préféré de l'année. How to Have Sex de Molly Manning Walker.
Oui, alors moi je l'ai mis en 5e position. Je dois dire que c'est un film que j'avais envie de faire apparaître dans mon top. Non pas que j'ai trouvé le visionnage très très agréable, mais il a une qualité qui se fait de plus en plus rare, c'est qu'il m'a montré des choses que je n'avais pas vues auparavant. Il m'a montré une situation qui est pourtant très très commune, celle d'une jeune femme qui découvre la sexualité dans un cadre adolescent, débordante, d'inconnu, et qui doit composer avec, y compris avec des aléas qui sont très difficiles à gérer, en fait, pour une jeune femme qui se construit. Je pense pour un jeune homme aussi, mais là, c'est vraiment un parti pris de regard féminin et d'expérience féminine qui est choisie. Et bon, bah voilà, c'est aussi dû à une inclinaison personnelle, étant moi-même une jeune femme qui vit des choses tragiques dans sa sexualité. Donc, donc j'étais contente de voir à l'écran. En fait, le nombre de jeunes filles autour de moi, d'amis, qui ont pu me décrire des faits similaires à ceux qui ont été montrés et qui pourtant ne sont jamais représentés, ou trop peu frontalement aussi. Et pour cette raison, moi, j'ai vraiment vécu, j'étais pas dans un accélérateur à particules, mais une espèce d'expérience de projection où tout ce qui m'était montré, j'avais l'impression de l'avoir déjà vécu par procuration, par moi-même, et en même temps d'avoir une incroyable nouveauté que de le trouver sur un grand écran. Et pour cette raison-là, je trouvais que c'était vraiment important pour moi de le faire représenter dans mon top. Après, c'est vrai que sur des qualités formelles, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a mis à l'honneur et peut-être qu'il en parlera mieux que moi. Parce que c'est moins cet aspect-là, finalement, qui m'aura séduit.
Ouais, moi, Jeanne, je vais te rejoindre. C'est un film que je voulais pareil mettre à l'honneur dans mon top parce que je pense que c'est important de le rappeler, c'est un premier film d'une réalisatrice. Et en fait, moi, je trouve que... Je sais pas, je pense que j'ai pas encore assez réfléchi pour l'analyser d'un point de vue formel, mais en tout cas, ce qui m'a fait pendant la séance, c'est que c'est un des rares, ça réussit vraiment, je trouve, ce que j'ai assez vécu, vécu assez rarement au cinéma, de me faire vivre cette expérience-là complètement, disons, en empathie. Enfin, je comprenais complètement le personnage, en fait. Même si moi-même, j'ai pas vécu ça, déjà, j'ai pu me dire, évidemment, j'aurais pu le vivre, parce que, je suis une femme qui aurait pu vivre ça, je vois des amis qui auraient pu, on aurait pu faire ça, et cette pression-là, je pense qu'en tant que femme, on est beaucoup à l'avoir ressentie. Et je trouve que c'est retranscrit d'une manière qui, moi, m'a vraiment emportée. Et j'ai pas vraiment les mots pour le décrire, justement, ce formalisme-là. Là, pour le coup, je te rejoins. Ce qui m'a vraiment touchée, je pense, c'est qu'on montre ce film à quelqu'un et... Ça fait bizarre de dire que c'est universel, mais j'ai l'impression que c'est un super outil pour faire comprendre ce que c'est de vivre ça à quelqu'un qui ne le vit pas. J'ai l'impression que ça retranscrit extrêmement bien cette expérience-là, et moi, c'est ça qui m'a touchée, au-delà du fait que je trouve que l'image est très belle, les costumes notamment. En fait, je trouve ça fou parce que les costumes, on aurait pu penser qu'ils sont sexualisants, alors qu'en fait, la caméra, par son regard, en fait, ne le fait pas, ne sexualise pas ces corps de jeunes filles qui ne sont même pas majeures. Et je trouve que, oui, en fait, on a... sans parler, le film arrive à nous montrer, on arrive à rentrer dans la tête de son héroïne, et du coup j'avoue que je perds un peu mes mots, mais en tout cas c'est un film qui m'a grandement touchée. Je crois que Thaïs, par contre, tu n'es pas de mon avis.
Moi, je dois jouer le contrepoint avec ce que vous avez dit, mais je vous rejoins sur cette qualité de sujet qui est en fait finalement consentir sans consentir, qui est très intéressante. Mais je trouve que ce qui déborde de ce point-là, de ce point central, est en fait pas très bien traité et assez simple, à part cette scène sur la plage où je trouve qu'on ressent très bien cette tension. En fait, on nous dit pas grand-chose, et moi, elle nous présente un vivier de personnages dont je me suis sentie tellement loin. Formellement, vous l'avez dit aussi, je vais vous rejoindre, je trouve que c'est toujours les mêmes scènes qui passent en boucle, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Et moi, ça m'a... Ouais, en fait, je me suis pas du tout identifiée à ces personnages, et ce qui est très dommage, parce que je me suis vraiment identifiée au sujet. Et donc, effectivement, c'est un premier film. Après, je pense qu'un premier film...
Voilà, oui, un premier film, c'est pas une qualité en soi.
Voilà.
Mais en tout cas,
le sujet était très bon. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai été aussi déçue, parce que je trouvais qu'elle touchait... Elle abordait quelque chose qui était un peu évident, parce qu'universel. Mais malheureusement, le traitement, pour moi, n'était pas n'était pas le bon.
Eh bien, merci à toutes d'en avoir parlé. On passe désormais à ceux qui sont fans de ce que j'appelle la Paul Mescal Exploitation, sujet qui me déplaît beaucoup. Je vais laisser pour cette fois la parole à Enora. Enora, ça a été un de tes films préférés, c'est After Sun de Charlotte Wells.
Donc j'avoue, je l'ai vu il y a presque 2 ans, enfin il y a 1 an et demi à Cannes en 2022, mais c'est un film qui m'a profondément marqué. Bon, d'abord, j'ai été séduite par le fait que Paul Mescal soit dans la distribution, je l'avoue. Et ensuite, c'était un film qui m'a beaucoup touchée, qui était tourné avec un grain argentique super beau et qui était super touchant sur les relations filiales. C'est un film qui parle des relations père-fille, un peu comme Scrapper, qui est sorti récemment et dont la réalisatrice d'Auto of Sex est d'ailleurs la directrice de la photographie. Et un film qui m'a profondément touchée, surtout quand on connaît la fin. Donc je sais pas ce que t'en as pensé, je crois que c'est Jeanne.
Bah je te rejoins, c'est un film très touchant. Bon, moi c'est clairement ma DA, hein, c'est-à-dire les relations père-fille, mes daddy issues qui ressortent. Effectivement, le grain de l'argentique, superbe, les vacances, le ton un peu passé comme ça, la musique. Toutes ces raisons, là je m'en moque un peu, mais en réalité je trouve que c'est très équilibré pour un film qui aurait pu autrement se révéler très cliché. C'est pas le cas du tout, il y a énormément de délicatesse. C'est un film qui est très doux dans ce qu'il montre et qui est pourtant très dur. Et de fait, je trouve que la relation qui nous est montrée est très complexe et laisse beaucoup de place à notre propre imagination. Donc pour ces raisons-là, moi, c'est un film qui m'a beaucoup parlé. Et je pense que c'est un film qui a aussi la qualité d'être très accessible dans ce qu'il montre. Justement, c'est en ça qu'il n'est pas cliché, que ce n'est pas juste un énième film indépendant de Sundance, mais au contraire, une comédie douce amère qui laissera les uns et les autres, je pense, sur des pensées très nostalgiques et mélancoliques, mais qui sont très bien traitées. Je crois que Valentine, tu es d'un autre avis, c'est ça ?
Bah t'as dit énième film indépendant de Sundance, j'ai levé la tête quoi, parce que c'est vraiment exactement ce que j'ai pensé. Moi j'ai trouvé que la photographie était vraiment très Sundance du début à la fin, avec un amas de plans qui voulaient rien dire ensemble, mais qui effectivement séparément étaient jolis. Mais enfin moi ça m'a vraiment, j'ai trouvé que le scénario dans son ensemble et la trame narrative étaient quand même hyper faibles, hyper plats. Et certes, c'est intéressant de parler d'une relation, il n'y a pas besoin de faire des rebondissements à tout va, mais il faut quand même qu'il y ait un propos, et j'ai trouvé que moi, le film s'est terminé, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai pleuré, quoi, parce que c'est tire-larme.
Parce que c'est merdique.
Mais j'ai aussi pleuré parce que qu'est-ce que ça devient, le cinéma. Non, oui, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré sans pour autant en retenir grand-chose, et honnêtement, je trouve que c'est aussi beaucoup... Enfin, le succès de ce film est aussi beaucoup dû au succès de Paul Mescal.
Et alors ?
Non, en vrai, j'ai rien contre, mais juste, je le trouve pas exceptionnel. Je trouve pas qu'il fasse une performance d'acteur exceptionnelle. Et je trouve pas... Enfin, vraiment, je trouve que ce film a eu beaucoup trop d'honneur pour ce qu'il était en réalité, à savoir, et je reprends ta formule pour la deuxième fois, Jeanne, un énième film indépendant de Sundance.
Je te rejoins, mais alors voilà, c'est le défaut des qualités ou les qualités des défauts. Personnellement, j'ai apprécié le fait que ce soit une espèce de tranche de vie, de brève, que ce soit pas un film effectivement à intrigue rebondissante et débordante, pour se concentrer sur l'appréciation d'un lien tangible et fragile et complexe entre deux personnages. Et je pense que ces deux personnages qui sont très évocateurs, ils sont très symboliques et en ce sens très riches.
Mais justement, ils sont, enfin, tranche de vie, d'accord, mais tranche de vie dans les tranche de vie dans les tons bleus avec des caméras super 8, enfin tranche de vie, non, enfin moi mes tranches de vie ne ressemblent pas à After Sun. Peut-être que t'as d'autres types de tranches. Mais, fair enough. Mais non, je suis évocateur certes, symbolique certes, bon film non.
Ok.
Peut-être juste si je peux rajouter quelque chose, moi j'avais aussi mis dans mon top, parce qu'en fait je trouve que ce qui fait la beauté du film, c'est aussi cette construction narrative, parce que oui certes il n'y a pas un fil narratif qui est très fort, mais en fait on va comprendre petit à petit ce qui se passe. Au début en tout cas moi je suis peut-être un petit peu bête aussi, mais on comprend pas ce qui se passe au début, et en fait c'est ce truc, pourquoi le film nous prend, et pourquoi même Valentine tu dis tu l'as pleuré, parce que en fait c'est sans être tire-larme, je trouve, parce que ça reste doux. En fait, on arrive. Enfin, c'est un film qui est fait un peu comme un puzzle, un film qui est en fait construit comme un souvenir presque. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce film-là, c'est que il est construit de telle sorte à ce que t'as l'impression d'être immergé dans la mémoire du coup de cette jeune fille qui se remémore ses souvenirs. Et c'est ça qui est fort, c'est que du coup t'as cet attachement-là. Et je trouve que c'est cette, pour moi, c'est la construction narrative que je retiens plus que Paul Mescal, même si évidemment on adore Paul Mescal.
Nous arrivons presque à la moitié de notre émission, mais pas de cet enregistrement, si vous saviez comme c'est laborieux d'en arriver jusque-là. Nous allons laisser la parole à Margot pour nous parler de son film préféré de cette année. Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras.
Donc, Toute la beauté et le sang versé, c'est un documentaire et j'avoue que je suis assez contente que ce soit un documentaire qui finisse, en tout cas dans mon top à moi, parce que je trouve que 2023 a été une année assez riche en termes de documentaires et je trouve que ça fait plaisir de voir ces formes un petit peu cinématographiques qui renouvellent un peu le genre. Je pense aussi à Little Girl Blue, qui est un espèce de film hybride entre documentaire et fiction. Et donc, pour en revenir à Toute la beauté et le sang versé, qui est donc un documentaire sur Nan Goldin, qui est une photographe américaine que je connaissais de nom, mais dont je ne connaissais pas spécialement le travail. C'est un documentaire que moi, j'ai trouvé extrêmement poignant et qui, en fait, retrace tous les combats de la vie de cette photographe qui vont de la façon dont elle a voulu représenter les communautés queer du New York underground des années 70 à son combat le plus récent, qui est donc un combat contre la famille Sackler qui commercialise les opioïdes aux États-Unis. Et vraiment, moi, c'est un film qui m'a, pour revenir sur ce que tu disais, Arthur, en termes de quantité de larmes au cinéma, moi, je crois que c'est vraiment ma palme de cette année en termes de larmes. Et je trouve que c'est un film qui a un message incroyablement puissant sur l'art de manière générale. Et c'est peut-être un petit peu cliché, mais la manière dont on peut se servir de choses qui nous ont presque mis à terre et en faire quelque chose de plus grand que soi. Et voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jeanne ?
Ce que tu en dis recoupe beaucoup de ce que je pense. Effectivement, sur l'ensemble des luttes auxquelles elle a pris part, et qui sont entremêlées en fait dans le film de façon pas complètement chronologique, et donc ça permet des comparaisons ou des parallèles entre différentes périodes et différents combats que j'ai trouvé très intelligents, notamment toute une séquence sur ACT UP, la question du sida dans les années 90, parce que comme tu l'as dit, très tôt elle va commencer à documenter la vie de la communauté queer à New York. Et donc, la question du sida va se poser également. Et la façon dont elle peut en faire un parallèle avec une lutte actuelle qui est aussi sur le terrain de la pharmacie, de la santé, avec cette lutte contre l'oxycotine et la famille Sackler. Ce que je trouve surtout très intéressant, c'est que c'est un film qui parle du fait de représenter. Donc, c'est vrai que moi, voilà, les films qui ont cette espèce de texte un peu méta m'intéressent toujours beaucoup. J'en suis très cliente. Et notamment là, dans le fait de représenter soit une forme de marginalité, soit la violence qui s'exerce quand on est une femme, quand on est une femme dans l'art, dans la marginalité, la question aussi de la représentation des personnes qui sont aujourd'hui considérées comme toxico et qui meurent d'overdose du fait d'un système pourri et corrompu. Enfin, il y a la volonté de vraiment montrer à l'écran et de donner voix au chapitre à celles et ceux qui le peuvent que trop rarement. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau. Et puis, ça donne aussi toute une question de la responsabilité dans la représentation et la représentativité, et notamment avec le combat de Nan Goldin et contre la famille Sackler, qui se pose précisément dans les institutions culturelles qui... affichent le nom Sackler sur les ailes de leur musée en raison des donations qu'ils peuvent faire et l'envie de venir laver ces lieux pour ne pas que le nom de ces criminels en fait ne soit lavé par la culture et l'art. Donc c'est des débats et des questions de société que je trouve passionnants. Elle en plus a une capacité de récit qui est extrêmement pertinente et poignante. Par ailleurs, on voit beaucoup de ses photos. Alors moi, je connaissais déjà son travail, mais c'est toujours un plaisir parce que, en fait, son œuvre majeure s'appelle La Ballad of Sexual Dependency, Et c'est un diaporama. Donc en réalité, on a des séquences de cette œuvre-là qui nous sont montrées avec les images qui défilent. Et pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi. Et pour la même raison que toi, j'avais vraiment envie de mettre un documentaire à l'honneur dans mon top, parce que ça a été une année riche en documentaires et que celui-là, pour moi, s'en est le mieux sorti.
Pour peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, moi je trouve que c'est un documentaire qui parfois est, enfin, pourrait être sur le papier un petit peu à la limite d'un documentaire très, très élogieux sur un parcours de femme incroyable, machin truc. Et je trouve qu'il y a, beaucoup d'intelligence et beaucoup de subtilité, notamment dans le fait que, enfin, moi j'ai ressenti un questionnement sur, par rapport à ce que tu disais sur la représentation de certaines populations marginalisées. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que ce film montre en quoi, notamment sur la question des opioïdes, qui en fait touche énormément de populations qui sont pauvres et qui n'ont pas forcément les moyens de porter ce combat-là dans les médias aux États-Unis, de se poser la question de est-ce que ça, la responsabilité incombe forcément à des gens qui ont déjà une visibilité médiatique et qui sont reconnus dans l'espace public, notamment le fait, le combat qu'elle mène contre les institutions culturelles. Je trouve que c'est super intéressant, ça pousse à se demander. En fait, peut-être qu'elle aussi, elle ressent bien qu'elle a, de par sa légitimité, elle est la seule, en fait, en quelque sorte, à pouvoir porter ce combat-là. Et je trouve que le film n'en fait pas, enfin, le documentaire n'en fait pas une personnalité non plus extrêmement héroïque. C'est-à-dire que parfois, il y a des extraits où on la voit interagir avec des gens, quoi. Et elle est parfois autoritaire, elle est parfois un peu cruelle, elle est parfois un peu méchante. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de ne pas être dans quelque chose d'extrêmement, 100% élogieux et d'aussi nuancer cette chose-là et de se dire oui, c'est vrai qu'elle est partie, oui, elle est partie de rien et elle a construit énormément de choses elle-même et elle a évidemment énormément de mérite, c'est pas la question. Mais oui, aussi ce questionnement-là sur en tant qu'artiste avec de la visibilité, qu'est-ce qu'on fait de ces combats-là qu'on est les seuls à pouvoir porter. Et ça, je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que c'est pas juste un documentaire un peu biopic sur tous les combats incroyables qu'a mené cette femme.
Eh bien, merci d'en avoir si bien parlé, ça donne très très envie de le voir. On rentre maintenant dans le top 5, les choses sérieuses commencent enfin. Et on arrive par le film français qui a détonné cette année, notamment dans son succès public, qu'on n'attendait pas. Le règne animal de Thomas Caillé, et c'est Juliette qui va nous en parler.
Oui, moi c'est un film qui arrive assez haut dans mon top. Pourtant, c'est pas forcément un genre que j'affectionne, en tout cas que je connais particulièrement, puisque c'est un film qu'on pourrait qualifier de fantastique. Et moi, c'est juste tout simplement pas un genre avec lequel je suis très familière, même s'il y a des très bonnes œuvres. Et en fait, je trouve, enfin, moi, j'avoue que ce qui me touche principalement au cinéma, ça va être les images. Et de ce film, je retiens avoir été littéralement bouche bée devant notamment les effets spéciaux pour représenter du coup les animaux, puisque je m'explique. En fait, le règne animal, en quelques secondes, même si je sais très mal résumer, en gros, on a le personnage, on est dans un monde qui ressemble à peu près au nôtre, mais en fait, il y a une espèce d'épidémie qui va transformer peu à peu des humains en animaux. Je pense que c'est pas trop spoilé de le dire. Et donc, on suit le personnage de Romain Duris qui est avec son fils qui est joué par Paul Kircher, dont la mère de Paul Kircher et donc la femme de Romain Duris est atteinte de ce syndrome-là. Et donc, eux vont essayer de bouger, elle, parce qu'elle est traitée dans un centre spécialisé pour ce syndrome-là. Et donc, va s'en suivre plein d'histoires sur même le développement de cette maladie en France, etc. Et donc, le film arrive à créer visuellement, à nous faire croire et à nous montrer d'une manière qui est vraiment époustouflante ces animaux qui sont en fait des hybrides, des hybrides humains-animaux, des choses qu'on ne peut représenter que par l'image numérique. Et en même temps, on sent que le film n'a pas non plus, enfin, c'est des gros moyens, mais je crois que c'est 14 millions de budget, c'est pas non plus énorme. En fait, on sent que, enfin, pour un film français, oui, mais enfin, quand tu regardes les, enfin, Paul fait mouais avec sa main, puisqu'on est à la radio et donc évidemment on avait le visuel, mais par rapport au Marvel, c'est complètement minime, je veux dire, comme budget. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression que ce film joue de manière très fine avec les effets spéciaux, qu'il n'en fait pas trop, qu'il veut pas tout nous montrer, c'est-à-dire qu'au début, il y va très lentement, on commence par voir les animaux en flou parce qu'ils sont en arrière-plan, on commence par en voir seulement une partie, il y va vraiment petit à petit, il est tout en parcimonie, je dirais, et en fait, il arrive à une telle maîtrise technique des effets spéciaux qui sont jamais complètement juste numériques. Il y a en fait des costumes, etc. Moi, je sais, c'est vraiment ma maman qui me l'a dit, mais il y a une illustratrice jeunesse, par exemple, qui s'appelle Rebecca D'Autremer, qui a participé à la conception même des visuels, en fait, des animaux. Et tout ça, je trouve vraiment... Ça, j'étais vraiment bluffée. Ça m'était vraiment rarement arrivé devant un film. Et pour ce qui est du côté émotionnel, c'est tout simple. Et moi, je trouve que le personnage de Romain Duris ressemblait énormément à mon papa. Donc, ça fait que j'étais vraiment prise dans le film. Donc, en plus, ça touche à des problématiques qui, moi, me touchent, qui sont les problématiques familiales. Et j'avoue que j'ai été un peu prise par ce film. Et je suis extrêmement heureuse de son succès public, mais je vais m'arrêter de faire un tunnel comme ça. Et peut-être que je te laisse la parole, Arthur.
Ouais, alors avant de donner la parole à Costal, qui sera notre point mitigé sur ce film, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. On a beaucoup parlé, je vais reprendre. Toi, tu étais parti un peu sur le cinéma de genre au début. On a eu une année dans le cinéma français qui a été riche en cinéma de genre, sauf que moi, j'ai un problème avec comment on traite le cinéma de genre en France, qui est un cinéma qui est de niche, où tu as 2-3 films par an qui, ça y est, ils parlent vite fait de thèmes horrifiques pour 50 000 spectateurs. On dit « Waouh, c'est la renaissance du cinéma français de genre ». Et en fait, on a ça tous les ans. Et on en a eu cette année. Moi, je pense à « Vincent doit mourir », je pense à « Acide », je pense à tous ces films-là qui ont... Alors, Paul fait encore les grands yeux. Non, mais tous ces films-là qui ont une audience très limitée, qui n'ont pas fait du tout de bruit. En plus, moi, je n'ai pas aimé, mais ça peut être des très bons films aussi, mais qui ont en fait un écho extrêmement faible. « Le règne animal », c'est ce film de genre qui a su enfin parler au grand public. Et moi, ça fait un truc qui m'a fait plaisir. C'est un film qui a dépassé le million d'entrées, qui a touché des sphères grand public qui ne sont pas du tout habituées à aller voir du cinéma de genre français. Et ça rend tout de suite quelque chose de ça rend ce film-là assez unique et un véritable espoir. C'est-à-dire que du cinéma de genre en France peut fonctionner et peut fonctionner au-delà de cette sphère très intimiste des aficionados du cinéma de genre français à tout petit budget, truc ric-rac, produit par Canal+ en sous-main. Ça montre qu'il y a un espoir de ce cinéma-là de pouvoir dépasser simplement cette petite sphère-là. Et tu l'as dit, Juliette, c'est un film qui, moi, m'a transporté émotionnellement vraiment très très loin. C'est un film qui s'est charrié des trucs extrêmement forts sur la famille, sur moi, c'est un film qui m'a fait penser beaucoup à ce qu'on peut imaginer du deuil. C'est extrêmement dark, j'en ai une lecture extrêmement dark, mais comment on représente le deuil au cinéma, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. En effet, visuellement et techniquement, c'est très très abouti. Très très bien se débrouiller avec des effets spéciaux finalement très réduits, puisque c'est un film qui se base beaucoup aussi sur ses costumes, sur son maquillage, sur son montage, par une économie de moyens qui n'est pas un film qui en fait pas un film cheap pour autant, mais un film qui sait très très bien utiliser ses effets. Et je vais m'arrêter aussi de faire un tunnel pour laisser la parole à Costal.
Donc oui, je vais être un peu plus mitigé sur ce film, ce qui m'attriste un peu, parce qu'en vrai je pense que c'est un très très bon film et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et je suis très content que ce soit un grand succès public. Mais je suis un peu surpris du fait que ce soit, que la presse soit aussi dithyrambique sur ce film, parce qu'au final, je trouve que là où il introduit bien son sujet et où le mélange des tons est au départ assez bien maîtrisé, où c'est assez drôle, en même temps ça fait peur, en même temps c'est émouvant, machin, machin. Au final, je trouve que le film est beaucoup plus convenu dans sa deuxième partie. Et au final, là où il avait probablement une ambition un peu philosophique de quel animal se cache en chacun de nous, machin, je trouve qu'au final, ce discours sur la famille, sur le deuil, il est assez convenu, au final, dans la deuxième partie du film. Et du coup, il n'y a pas quelque chose qui se démarque profondément en termes de fond. Ce n'est pas un film qui m'a absolument bouleversé ou marqué par son discours. Je trouve que ce n'est pas abouti, juste le scénario n'est pas abouti dans ce sens-là. Et au final, les effets visuels, même s'ils sont très beaux, tu as parlé de Rebecca D'Autremer, machin, il y a quand même des visuels qui sont parfois assez maladroits, avec des plans qui auraient pu être évités assez facilement, comme quand il y a l'aigle qui vole sur les cimes des arbres. C'est assez moche, honnêtement. Donc, c'était pas nécessaire pour autant. Enfin, on n'a pas besoin de montrer qu'on sait faire des effets spéciaux, quoi. Du coup, je trouvais ça, au final, dans sa deuxième partie, plutôt mitigé.
Alors, pour ce qui est des effets spéciaux, pour le coup, moi, s'il y en a un seul à jeter, ce serait plutôt les plans de nuit qui, je trouve, sont moins bien réussis, qui sont vers la fin du film. Mais l'aigle qui vole sur les cimes, moi, je trouve plutôt bien fait. Mais après, ça, c'est une question d'appréciation aussi plutôt esthétique, je dirais. J'avoue que ça ne m'avait pas choqué, moi, au visionnage. Et pour ce qui est des enjeux philosophiques, je pense que le film les aborde. Après, c'est vrai qu'il ne va pas... enfin, moi je trouve qu'il traite quand même plutôt bien son sujet pour un, enfin, un enjeu qui est quand même assez important, enfin, qui voilà, remet en cause ce qui fait de nous des humains, en fait. Et je trouve qu'il le questionne assez habilement. C'est vrai qu'il va pas, il va pas extrêmement en profondeur, mais moi justement, en fait, Arthur parlait du deuil. Moi, ce qui m'a plu en fait dans ce film aussi, c'est que bon, on a vu le film tous les deux, et lui a vu une métaphore du deuil. Moi, j'ai vraiment vu une métaphore de l'adolescence aussi, et c'est aussi pour ça que ça m'a plu, parce que moi, c'est des thèmes qui me sont chers. Et en fait, je trouve que ce film, en fait, on peut aussi voir beaucoup de choses en fonction. Enfin, c'est très bateau de dire oui, on y voit en fait beaucoup de choses en fonction de ce qu'on voit derrière, etc. Mais c'est un peu vrai, je trouve que cette métaphore-là, elle marche pour énormément de sujets. Et du coup, c'est aussi ce qui peut expliquer son succès public, c'est que ça touche aussi beaucoup de monde et que ça questionne en fait notre humanité, ce que c'est de changer, et ce qui fait vraiment de nous qui on est. Et même si c'est bateau et large, et que du coup, oui, effectivement, il prend que un seul axe, et qu'effectivement, on pourrait regretter certaines choses. Je dis pas du tout que le film est parfait, la relation de Paul Kircher avec les élèves à l'école, voilà, tout n'est pas parfait, mais je sais pas, moi, j'ai quand même un souvenir de ce film qui me touche énormément, et effectivement, je retiens plus l'émotion que le discours philosophique, même si on creuse derrière, ça ouvre aussi, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça ouvre la voie à la réflexion. Ça nous donne pas toutes les réponses faites, mais en tout cas, ça pose des questions, je dirais.
Et bien, sur ce, on fait nos valises et on part à Tokyo pour notre quatrième film, celui qui échoue au pied du podium, mais pourtant l'a énormément aimé ici, notamment Enora. C'était ton film préféré cette année. Je parle évidemment de Perfect Days de Wim Wenders, et tu vas en parler.
Alors oui, j'ai adoré ce film, c'était mon top 1 de l'année. Déjà, j'adore Wim Wenders, et puis Tokyo aussi. Que dire de ce film ? Déjà, il montre tous les petits détails du quotidien, il les sublime à chaque fois. Alors, il se passe rien d'incroyable dans ce film, il n'y a pas d'intrigue géniale, mais on est fasciné par tout ce que vit ce monsieur Hirayama, qui est un nettoyeur de toilettes publiques à Tokyo. Et puis, il y a aussi cette BO qui est sublime, avec notamment Patti Smith, Otis Redding, etc., les Beatles, et qui est vraiment incroyable. Et voilà, on voyage à Tokyo, on voit tout le quotidien. Enfin, j'ai adoré ce film, je saurais expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé ça magnifique. La photographie est sublime. Voilà, donc je sais pas si d'autres gens ont aimé.
Oui, écoute, moi c'est un film qui figure également dans mon top. Comme toi, j'aime beaucoup Wim Wenders, donc peut-être que j'ai été un peu orientée au visionnage de ce film. Comme tu dis, c'est une écriture assez méticuleuse, qui s'attarde sur tous les petits détails, et pourtant je trouve que ce qui ressort de ce film, c'est des sortes d'impressions un peu abstraites. D'ailleurs, il y a tout un jeu avec la photographie qui est un peu un terrain glissant, je trouve, mais qui est assez bien maîtrisé dans ce film, parce que très ponctuel. Oui, c'est des impressions un peu inqualifiables, une sorte de mélancolie, mais pas triste, davantage une sorte de mélancolie heureuse. J'ai été prise par ce film, comme toi, je pense que je peux pas trop expliquer pourquoi, et c'est peut-être pour ça qu'il peine à figurer plus haut dans mon top, mais je suis assez favorable, voilà.
Moi, je vous rejoins de ce que vous avez dit sur ce film-là. C'est très difficile, en fait, de savoir pourquoi on aime Perfect Days. Et d'ailleurs, quand je suis sorti de la salle, et même quand j'ai commencé à faire mon top de l'année, il était beaucoup plus bas. Et finalement, je l'ai fait monter petit à petit, parce que je me suis rendu compte que c'est un des films qui m'était le plus resté, alors que je serais bien foutu de tirer des scènes en particulier. En fait, c'est simplement cette ambiance très magnétique qui en ressortait, alors qu'il a pourtant rien à voir, on va dire, au niveau des thèmes abordés et beaucoup de choses d'ailleurs. Moi, je le compare presque à Blade Runner, qui est mon film préféré, et notamment à la première partie de Blade Runner, qui se concentre juste sur la vie quotidienne du personnage principal, et que j'aime beaucoup parce que je me suis toujours dit que s'il y avait une ville pour représenter Los Angeles de Blade Runner, ce serait Tokyo, et qu'on arrivait aujourd'hui à l'époque où Blade Runner serait contemporain, et que finalement cette ville-là, en fait, est de représenter quelqu'un qui n'est qu'un tout petit rouage dans cette gigantesque mégalopole, et de le voir se balader dans cette ville-là, aller dans des lieux qu'il connaît, qu'il aime bien, c'est une expérience complètement dingue et qui m'a transporté, m'a ému énormément, alors que vraiment je serais incapable de dire ce qui moi m'a plu dans ce film là et je pense que c'est juste que le film sait aller à un essentiel très brut, à une réalisation très fine, et que c'est ouais, peut-être le film qui me restera le plus en mémoire de cette année, alors qu'honnêtement c'est un film, quand on en sort on pense qu'on a vu quelque chose d'insignifiant, et que finalement tous ceux qui en sortent des mois après, on arrive à en reparler et à en sentir qu'on a tous une émotion très forte qui nous en est ressortie. On monte sur le podium, on arrive à la 3e place. Margot est dans les starting blocks, mais ce ne sera pas pour défendre ce film là c'est Valentine qui va s'en charger. Valentine, tu as adoré La Chimère, c'est ton 2e film cette année. Est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Moi, j'ai adoré La Chimère, j'ai surtout adoré le combat que ça a provoqué avec Margot. Non, en vrai, j'ai adoré La Chimère parce que j'ai trouvé que c'était un film qui fonctionnait vraiment par l'image et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup émue, sans nécessairement me faire penser et me faire réfléchir à 10 000... sujet philosophico-politique, tout en pourtant me provoquant beaucoup de réflexions, et notamment des réflexions qui sont venues après, parce que pendant j'étais beaucoup trop occupée à regarder la photo, enfin chacun des plans et des enchaînements et des regards des personnages qui étaient absolument magnifiques, avec des performances qui sont même plus des performances, enfin dont on oublie qu'elles sont des performances parce que tous les comédiens sont vraiment excellents. Et voilà la sensation qu'on me... la meuf qui a pas fini sa psychanalyse. La sensation qu'on se penche au-dessus de mon lit pour me raconter un conte et me lire une histoire avant de dormir. C'est très bizarre dit comme ça. Mais c'est vraiment le sens premier de raconter une histoire, dans le sens où on sait pas où on est, quand on est. Juste on nous prend, on nous présente des personnages qui n'ont, encore une fois, pas d'inscription spécialement... spécialement marqué dans une quelconque réalité, mais qui finissent par nous émouvoir, on ne sait trop comment, au terme d'une série d'aventures qui n'ont rien d'exceptionnel ni de fantastique, mais qui pourtant sont fantastiquement symboliques et réussies. Je dirais, j'ai même pas envie de te passer le micro, Margot, tellement j'ai envie de te casser la gueule. Non, mais je vais passer le micro à my dear Tata.
Bon, avant de donner le micro à Margot, moi, je te rejoins totalement sur ce film. Je trouve que c'est vraiment un film qui choisit très bien son sujet, dans le sens où c'est un sujet très précis, en même temps, c'est un mélange étrange entre originalité, parce que très précis, et en même temps, il n'y a rien d'effectivement de très saisissant, mais elle conduit très bien son histoire. Il y a toute une narration un peu symbolique autour du vide, mais que je trouve pas du tout surécrite. Enfin, je trouve que le spectateur a quand même tout à fait la place de prendre ce qu'il veut et de d'écrire un peu entre les lignes. Et je trouve que c'est un très bon film parce qu'il utilise les ressorts, la matière filmique pour illustrer le propos, et pour conduire le propos. Il y a des plans très beaux, mais très intéressants, parce qu'ils écrivent, en fait, ils accompagnent tout à fait la narration, ils constituent une narration propre. Je trouve que là où peut-être je vais juste mettre un... Enfin, je vais peut-être... être moins partiel que toi, Valentine, c'est que je trouve que ce laboratoire de recherche esthétique est peut-être parfois un peu trop fourni. Et il y a des plans très intéressants, mais parfois, c'est vrai qu'elle superpose un peu trop. Je trouve qu'elle joue trop de la diversité des techniques filmiques. Et je trouve qu'au bout d'un moment, ça devient un peu trop répétitif et on attend au tournant à chaque fois quelle nouveauté ce qu'elle va apporter. Mais je trouve que c'est quand même un très très bon film, et c'est pour ça que je l'ai mis, moi, en numéro 1 de mon top. Margot, est-ce que tu es prête ?
Je suis plus que prête. Alors, par quoi commencer ? J'ai tellement de choses à dire. Car figurez-vous que ce film est dans mon flop personnel. Voilà, je suis la seule et je l'assume. Alors, pour moi, ce film, en fait...
ma sœur de 16 ans m'a appris cette expression il y a pas longtemps. En fait, je trouve que Alice Rohrwacher est vraiment une prouveuse. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment... C'est une grosse prouveuse. C'est-à-dire qu'elle veut montrer qu'elle est capable de faire du cinéma intellectuel, de faire du cinéma symbolique, de mobiliser des références philosophiques, d'avoir une esthétique léchée. Thaïs, tu as l'air vraiment dépité, quoi.
Non, mais je trouve que... En fait, il faut que toi-même, tu te remettes en question, parce que je...
Est-ce que tu trouves que Margot est une prouveuse?
Mais Margot est non seulement une prouveuse, mais en plus une énorme c***. Je pense que toi-même, tu surintellectualises ce film et tu lui prêtes des intentions. Ce que je disais, en fait, je trouve que ce film, il dit pas grand-chose. Donc, tout ce qui est dit, tu l'apportes un peu personnellement. Donc, si c'est chiant et intellectuel, bah, je pense que ça vient en grande partie de toi.
Mais en fait, moi, le truc, c'est que j'aurais adoré ne pas surintellectualiser le film parce qu'effectivement, le film ne me dit rien. Donc, moi, pendant ces 2 heures de visionnage douloureux, je me suis dit, putain, je me fais chier, il se passe rien, je vais bien essayer de trouver des symboles. En fait, c'est fondamentalement ce qui s'est passé pour moi. Et que dire de ces personnages, enfin, en particulier le personnage principal Arthur, je sais plus comment il s'appelle, ce con là qui a vraiment aucune profondeur, qui a un personnage manichéen au possible. D'accord, il a pas de passé, il a pas de futur, enfin une fois qu'on a compris, il a un passé, mais laissez-moi finir mon propos.
Tu dis qu'il se passe rien, je suis pas d'accord.
Alors attends, donne-lui le portable.
Elle veut garder son portable.
Moi je voudrais rappeler aux spectateurs notamment cette symbolique autour du fil d'Ariane, mais qui est d'une lourdeur, mon Dieu, mais c'est pas possible de faire des choses aussi lourdes. Et moi, pourtant, c'est pas comme si j'avais une connaissance extensive du cinéma italien néo-réaliste, tout ce que vous voulez, mais alors vraiment, je crois que chaque film italien pré-années 90 que j'ai vu, j'ai retrouvé des références à ces films-là dans ce film, parce que c'est un film qui référence constamment et qui n'a absolument aucune inventivité. Et même visuellement, moi, je n'en peux plus que tout le monde crie au génie dès qu'il y a des espèces de photographies à la pellicule. On en a marre de ces espèces de photographies délavées quand il y a des flashbacks et des trucs oniriques.
Mais Margot, je pense que tu aurais dû te détendre pendant ce film et arrêter de chercher des références au cinéma néo-réaliste. Enfin, je sais pas, moi, je ne m'assois pas dans une salle de cinéma pour chercher des références à Fellini. Enfin, je peux le faire aussi, tu vois, mais c'est juste chiant. Donc, moi, à ta place, j'aurais respiré un coup et j'aurais ouvert les yeux pour regarder cette beauté.
Margot a découvert Rossellini, elle est en mode « Ah putain, Rossellini !»
Désolé, je regardais les Vitelloni de Fellini hier et je me suis dit « C'est totalement du plagiat bon. !»
Non, mais Margot, quand tu dis que... Non, mais quand tu dis que t'en as marre de cette photographie délavée, bah écoute, moi j'en ai marre de tous les autres films, sauf...
ça de dire « J'en ai marre de toi, en fait, je veux que tu te partes d'ici !» Moi, je suis là et je te dis out, out now.
J'avais dit ça.
C'est ce que j'ai entendu. Mais non, non, plus sérieusement, en vrai, je comprends le... Non, mais je comprends le reproche des références un peu outrancières au cinéma italien des années 70, des années 60, mais ça me paraît pas un problème parce que je pense qu'elle élabore son propre propos. Oui, effectivement, pour reprendre une référence que j'ai donnée il y a exactement 25 secondes.
Si, c'est des références.
Voilà, les.
Chiant, mais c'est pas grave.
Non, mais.
Ça
les...
sert son propos, quoi. C'est ça.
Les Vitelloni, par exemple. Effectivement, il y a cette espèce de. Comment dire, de cette merde italienne qu'il y avait dans les années 60 à la pellicule, mais elle trouve quelque chose là-dedans. Et je trouve qu'elle trouve beaucoup plus de choses que beaucoup de ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui. Et justement, elle a une recherche, notamment dans ce qui est de l'onirique, qui n'était pas là à l'écran il y a 50 ans, comme tu le dis, et qui l'a aujourd'hui, qu'elle transmet, qui est d'une puissance assez stupéfiante. Et quand Valentine nous dit qu'on peut se pencher dans chaque image et se perdre dans cette espèce de rêve, je suis d'accord. Enfin, y a un truc où c'est un film monde dans lequel on a envie de se plonger, de se laisser aller, de vivre. Et oui, c'est un film qui est hyper référencé, mais enfin bon, si on enchaînait un film pour être hyper référencé, je suis désolé, il n'y aurait plus un seul film dans ce top 10. C'est quand même...
Oui, mais moi, je ne reproche pas à des films de référencer d'autres films. Enfin, je veux dire, oui, on est en 2024 et il y a des millions de films qui ont été faits avant. Évidemment qu'on... Enfin, le cinéma, c'est un art qui est codifié. Évidemment qu'il y a des choses qui se retrouvent dans tous les films. Et je ne dis pas le contraire. Je dis juste que ce qui est intéressant dans le fait de voir un film aujourd'hui, c'est à partir de ces références-là qu'on a
qu'on a ou pas, enfin, c'est pas la question en fait, c'est juste est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose, et pour moi ce film n'en fait rien. Et je voulais aussi rebondir sur cette critique personnelle comme quoi j'aurais surintellectualisé le film, mais les gars, mais redescendez sur terre, qui a vu ce film à part les connards de Sciences Po que nous sommes qui allons au cinéma d'Odéon, genre les gars, qui a vu ce film? Personne ne l'a vu, mais oui, parce qu'on est à Paris, genre moi je ne connais personne en province qui a vu ce film, genre vraiment les gars, faut arrêter, c'est un film de gros intello du cinéma. Oui, mais vous pouvez pas,
une année difficile, j'en ai rien à faire.
Oui, mais faut... Non, mais vous pouvez pas me reprocher de faire une critique intello du film alors que c'est un film d'intello, mais c'est trop intello pour moi, enfin en fait, et pour beaucoup de gens, je pense, fondamentalement.
Non, mais moi je suis pas d'accord, parce que je trouve que
c'est pas un film très intello.
Ouais, je trouve qu'elle, ou en tout cas, cette intellectualisation, elle la pose sur une histoire en fait très triviale. On parlait d'un conte en fait, c'est, je trouve que.
Mais paradoxalement, le film est assez bébête en fait.
Oui, je trouve qu'il y a une histoire en fait que tu peux tout à fait suivre sans aller chercher un récit sur le vide, la mort, la. Enfin.
Moi... J'irais même jusqu'à dire qu'il y a un fil narratif dans le film que certains ont reproché d'être un peu évident, mais il y a un fil narratif rouge dans le film au cas où on n'est pas compris.
Mais moi je suis pas du tout d'accord. Moi ce que je trouve absolument merveilleux dans ce film, c'est qu'il m'a. Oh waouh, attaque sur le physique. Il m'a complètement recentré sur. Enfin, c'est un film qui m'a fait énormément penser, réfléchir sur ce que vous voulez, qui m'a montré beaucoup de choses esthétiquement, enfin tout ce que vous voulez, mais le passage du film, du visionnage du film et de l'histoire qu'on m'a racontée à tout ce que j'ai pu en penser et en réfléchir par la suite, c'est pas Alice, enfin c'est pas la réalisatrice qui me l'a, j'ai évité de prononcer son nom de famille par ailleurs, c'est pas Alice Rohrwacher qui me l'a expliqué par Alice, pardon, oh là là putain, même ça, c'est pas Alice Rohrwacher qui me l'a expliqué ou qui me l'a démontré ou qui me l'a écrit noir sur blanc sur sa pellicule, c'est un passage qui s'est opéré de manière extrêmement mystérieuse entre ce que j'ai vu à l'image, ce que ça a provoqué dans mon cerveau, et ensuite, tout d'un coup, j'ai reconsidéré des trucs qui m'ont fait reconsidérer énormément de choses, sans pourtant que j'y ai été poussée par une structure pseudo-intellectuelle à la con, comme on peut voir. Et Margot, quand tu dis que c'est un film d'intello et que personne ne l'a vu en France, je pense que cet argument est un peu facile, et que si tu veux, à ce moment-là, on parle de Perfect Days, et je te fous un coup de marteau sur la tête.
Intervenir au milieu.
Je dis juste que vous ne pouvez pas m'attaquer sur le fait que je fais une critique hyper intellectuelle du film, alors que le film est extrêmement intellectualisant par essence, et c'est pas grave, mais juste vous ne pouvez pas m'attaquer là-dessus, voilà.
J'ai volé le micro, parce que sinon ils étaient partis pour des heures. Mais j'ai vu ça, moi je défends toujours les opprimés, je te défends Margot, même si j'ai aimé le film. Voilà, la vraie gauche défendra Margot aujourd'hui. On arrive maintenant à notre deuxième place du podium. C'est un film qui nous vient d'outre-Atlantique, pas d'Amérique, mais du Québec. Et ça va être... Qui c'est qui va en parler, ça ? Bon, allez. On va mettre celle qui d'habitude descend les films et qui aujourd'hui sera positive, très positive. Thaïs, tu vas nous parler de simple comme Sylvain.
Honnête, Smilo. C'était un très bon film. Écoutez, simple comme Sylvain.
Super. Bon, voilà, hop, on applaudit.
C'est simple comme moi. Quelqu'un veut introduire.
Du coup, c'est Costal qui va introduire sur simple comme Sylvain.
Donc, simple comme Sylvain, comme beaucoup le savent, c'est une histoire d'amour passionnel entre une universitaire, professeur d'université et un menuisier. Passionnel, ouais.
Pourquoi tu l'aimes ?
Mais alors, c'est un très bon film, déjà parce qu'il est très bien écrit, il est à la fois drôle, exaltant, jubilatoire, et à la fois, il peut être aussi assez grave, voilà, ce n'est pas que léger, ce n'est pas que dans la légèreté. C'est également, et je pense, l'atout du film, une plongée sociologique, on pourrait dire, donc entre une universitaire qui peut-être essaye d'échapper à un certain déterminisme social en ayant une relation avec un menuisier.
Moi, je vais te rejoindre sur l'écriture. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui aborde un sujet très simple, mais qui excelle dans sa narration, dans son écriture. J'ai trouvé que les dialogues étaient extrêmement fins. Tu parles d'un point de vue sociologique, mais encore une fois, c'est fait avec beaucoup de finesse. Je ne crois pas à Bourdieu. Et puis, au-delà du discours sociologique, je trouve qu'il y a un discours sur l'amour avec des relations assez originales, en fait, qu'on ne voit pas très souvent. Donc, elle alterne avec deux relations, parce qu'elle passe d'une relation à l'autre. Et je trouve que les deux sont très bien traités et sont très originales. Je vais juste mettre un petit bémol sur la réalisation. Pourtant, je trouve que Monia Chokri a d'habitude beaucoup d'originalité. J'avais beaucoup apprécié Babysitter. Là, j'étais un peu moins séduite par le style. Mais l'écriture, encore une fois, je trouve sauve. Et c'est pour ça que je le mets dans mon top. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Moi, Thaïs, là où je te rejoins le plus, c'est par rapport à l'amour. Plus que les discours sociologiques, le déterminisme social dont tu parlais, Costal. Moi, c'est tout le discours, en fait, autour de l'amour, de comment est-ce qu'on aime, qu'est-ce que l'amour, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est fulgurant, est-ce que c'est de l'amitié qui va à plus, que j'ai trouvé très intéressant. Et surtout, ce que moi, j'ai perçu être le message de fond du film, c'est que cette quête, en fait, de l'amour parfait, et qu'en plus, on voit maintenant de plus en plus, serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux, tous les gens qui s'affichent dehors, regardez, on file le parfait amour, c'est merveilleux, rien ne se passe de mal, justement, qui dénonce, en fait, cette quête de l'amour parfait, il n'y a pas d'amour parfait, parce que pour que l'amour soit parfait, il faudrait être aimé exactement comme on veut être aimé, et ça, ce n'est pas possible, parce que personne d'autre n'est exactement comme nous, et donc personne d'autre ne pourra nous donner exactement ce qu'on veut. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, dans le sens où c'est de façon très discrète, en fait, ça pose la question et ça nous pousse, en y réfléchissant plus tard, à nous la poser. Et c'est ce propos nuancé, moi, qui m'a touchée, pas tout de suite en sortant du film, mais au contraire, quand j'y ai réfléchi plusieurs heures après, je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est pas juste parce que c'est une comédie ou une dramédie, donc ils peuvent pas finir ensemble, c'est parce que, en fait, il y a cet objet-là qui est sous-jacent et qui est un peu plus profond. » Mais après, peut-être que j'extrapole.
Je suis d'accord avec toi sur le sujet de l'amour. En plus, on peut le voir à chaque fois à travers les cours que donne Sophia à l'université du Troisième Âge, quand elle cite des philosophes comme Schopenhauer, Belloux et tout, etc. Mais sinon, au-delà de ça, moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Thaïs. J'ai trouvé que la réalisation était très bien faite avec une esthétique super vintage, 70s et très orangée, que j'ai beaucoup aimé. Et puis tous ces zooms, un peu comme nous l'a expliqué Monia Chokri dans cette super interview que nous avons faite, et où Monia Chokri dit que tous les zooms qu'elle fait, qui sont très prégnants dans le film, sont pour rappeler un documentaire animalier. Voilà, donc c'est assez fun comme anecdote.
Alors, que rajouter après ce concert de louanges? Non, peut-être parler de quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué juste avant, qui est la représentation hyper débridée et un peu décomplexée des désirs d'une femme de 40 ans. Et c'est à la fois hyper juste et hyper drôle. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est malgré le fait que ça... qu'il y a un côté un petit peu tragique dans cette histoire d'amour qui est un peu vouée à l'échec, je trouve que la réalisatrice ne se départit jamais d'une forme d'humour et de second degré qu'on retrouve dans les choix de réalisation, le fait qu'on ait des scènes de sexe, de faire ces zooms hyper appuyés dont tu parlais. Et je trouve que cet humour-là qui est toujours qui est féroce, mais en restant tendre et sans jamais être dans la moquerie pure et simple de ces personnages, est quand même assez rare et assez remarquable. Voilà. Juliette, je te passe le micro.
Non, mais vraiment, un dernier point, c'est... Margot, tu parlais des scènes de sexe. Moi, je trouve que c'est vraiment... En l'ayant vu, je trouve que c'est une des innovations. Enfin, moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est la manière dont elle arrive à filmer, en fait, presque uniquement, du coup, Magali Lépine Blondeau, qu'on a également interviewé avec Mona Schriller, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Mais non, mais en fait, cette manière-là de représenter le désir féminin et de montrer la sexualité, je l'avais vraiment très rarement vu au cinéma. Et moi, c'est un des apports principaux du film.
Et avec Sylvain comme objet sexuel, contrairement à la femme qui est traitée avec un female gaze assez imprégnant.
Après avoir du coup parlé de simple comme Sylvain, nous arrivons enfin à la fin de notre top 1, ce fut de top 10. Ce fut très laborieux d'arriver jusqu'ici. Nous avons dû passer les écueils de la mauvaise foi.
Ça fait à peu près 3 heures qu'on est enfermés.
Regarde, fais des roulements de tambour.
Nous arrivons sur un film qui a été encensé toute l'année, et nous ne pouvons faire autrement qu'en parler en première position. C'est... Anatomie d'une chute de Justine Trier. Jeanne, c'est toi qui auras l'honneur d'en parler pour la d'en parler en première.
Bah, que dire, qui n'ait pas déjà été dit, finalement. Non, mais on le voit là très récemment avec bon, la Palme d'Or, les nominations aux Oscars envers et contre tous, les Césars là qui déroulent le tapis rouge pour Justine Trier, et on s'en réjouit. Personnellement, voilà, j'ai été obligée de le mettre en top 1. Ça me semblait logique, il n'y avait pas de place pour un autre film que j'ai trouvé plus culte que celui-là et qui, je pense, marquera plus l'histoire du cinéma que celui-là cette année, sortie en 2023. L'histoire, si vous ne la connaissez pas, d'Anatomie d'une chute, c'est un crime et tout le procès qui va s'en suivre, dans lequel une femme est donc accusée d'avoir tué son mari, une écrivaine. Or, son mari est mort dans des circonstances mystérieuses. Je crois que j'ai jamais entendu un résumé aussi compliqué de ce film.
C'est une histoire de poutres et de poubelles, voilà.
Et donc, il va s'agir de démêler le vrai du faux. Évidemment, mention spéciale, la Palme Dog pour Snoop.
Pour Snoop. Que Snoop prenait des interviews privilégiées à ceux qui étaient sélectionnés par son équipe de communication.
Ouais, on n'a pas eu la chance de l'avoir à Popcorn, mais on espère pour une prochaine fois. Et je pense que là, une des raisons pour lesquelles ce film marche très bien et pour lequel il reçoit un accueil aussi positif, c'est tout d'abord son écriture. Là-dessus, on est obligé de saluer aussi le travail du co-scénariste, donc Arthur Harari, qui a travaillé avec Justine Trier à la conception au scénario de ce film. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire, mais peut-être que c'est aussi une histoire, tout simplement. Peut-être que c'est aussi une histoire qui tend à questionner notions de vérité, de mensonge, d'amour. Enfin, ça fait appel à des notions qui sont très très vastes et qui sont pourtant décrites avec une acuité incisive. Et je pense que c'est pour ça que la scène de la dispute nous aura tous traumatisés. Je sais pas quoi ajouter qui n'ait vraiment pas déjà été dit, mais je laisse ce challenge pour les suivants. Est-ce que quelqu'un veut en parler ?
Je reconnais qu'Anatomie d'une chute était un bon film, voire un très bon film, mais pour autant, je ne sais pas, je n'ai pas senti que c'était forcément le meilleur film de l'année, qu'il était incroyable, transcendant. J'ai beaucoup aimé, en fait, tout le questionnement que ça nous pousse nous-mêmes à avoir sur nos préjugés, sur ce qu'est être une mauvaise femme, une mauvaise mère, et comment est-ce que nous, en tant que spectateurs, de la même façon que c'est le cas pour les personnes qui assistent au procès, ça peut nous pousser à avoir une vision ou une autre de la culpabilité de cette personne. C'est intéressant. Mais même, il y en a qui parlent de tension, en fait, qui les a maintenus en alerte pendant tout le film. Moi, je n'ai pas ressenti ça. J'ai trouvé que, intellectuellement, j'aimais ce qu'elle me disait, mais pour autant, ça m'a laissé assez froide, parce qu'à aucun moment, je n'ai réussi à construire une connexion émotionnelle avec qui que ce soit. Après, certes, c'était pas forcément l'objet du film, mais j'ai eu, en fait, du mal à rentrer dedans. Peut-être à cause de sa maîtrise technique, parce que la maîtrise technique est très bonne et que ça laisse de côté les aspects un peu plus humains qu'on cherche en fait en tant que public et pas que en tant que cinéphile ou critique de ciné ou amateur d'art. Donc oui, peut-être que je pense que ça va être le fin mot de cette nuance qui est un peu plus compliquée à voix haute que dans ma tête. C'est un très bon film de cinéphile, de critique, mais je comprends que chez le grand public, il y ait des avis plus mitigés.
Eh ben, c'est intéressant parce que moi, je suis à peu près l'exact inverse. Moi, j'avais beaucoup raisonné déjà avec le film précédent de la réalisatrice, Sibyl, que j'avais trouvé vraiment pour le coup magnifique. Et je me rappelle en être sorti et m'être dit, mais c'est fou de faire encore du cinéma comme ça. Et où elle castait déjà son actrice principale dans un rôle de créatrice frustrée et brutale, comme quoi elle lui a trouvé un type. Et elle s'obsédait déjà sur le rapport entre le narratif
immersif entre la narration publique et privée, entre la création en tant que représentation de soi et la création en tant que, qu'objet de consommation. Qu'est-ce que c'est d'être un créateur face à un public? Et finalement, elle retombe là-dessus dans Anatomie d'une chute. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué. C'est l'espèce de l'impression qu'elle avait effectivement d'être peut-être une. Ben, c'est pas une impression de la maturité, c'est pas le sujet, mais de continuer à opérer sur ces thématiques en allant toujours plus loin, en fait. Si elle utilisait la psychologue dans Sibyl, ici, elle se pose directement face à la justice, c'est-à-dire quelque chose qui est très ordonné, qui est très précis, qui est très... et paradoxalement, qui est très théâtral, en fait, qui est beaucoup plus théâtral que même la psychologie ne pourrait l'être. Et elle donne, du coup, une intériorité à toute cette histoire, alors qu'on ne connaîtra jamais ces gens, qu'on ne connaît pas ces gens, et que les images qu'elle daigne nous montrer nous paraissent si loin, et pourtant si violentes. Et c'est la violence qui est toujours au centre de son cinéma, qui était déjà dans Sibyl, qui est vraiment un film que je trouve quasi insoutenable par séquence, tellement il est, comment dire, vicieux dans sa représentation de l'intimité, qu'elle, je trouve, arrive à trouver quelque chose de beau. Et c'est pour ça, finalement, que je suis assez en désaccord, c'est que moi, je trouve que c'est un film très émouvant, en fait. Je trouve que c'est un film qui est très puissant parce qu'il est à la fois très dense et en fait très humain. Il a ses personnages complètement perdus dont on ne connaîtra jamais quoi que ce soit. Même Swan Harlow, ce type qui est complètement perdu en marge de cette histoire et qui pourtant a tant de choses à offrir. Tous ces personnages, cette galerie de personnages qui sont très très loin de nous et qui sont intentionnellement très très loin de nous et qui dont on a absolument envie à chaque seconde pendant qu'on regarde ce procès, pendant qu'on regarde ce film, d'avoir chaque détail de leur intimité. Et c'est en construisant ces êtres humains, je trouve qu'elle arrive à créer ce film et sa puissance. Et moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est pour ça que je suis assez en désaccord finalement avec ce que tu nous dis. Mais c'est vraiment ça qui m'a marqué.
Alors moi, du coup, je pense que ce film mérite vraiment sa place au classement. Déjà, je trouve ça vraiment bien que les deux premiers films du classement soient portés par des figures de femmes. Pardon.
La troisième, c'est la chimère. C'est trois.
Ah oui, c'est la chimère. Oui, non, mais je voulais dire personnage féminin. Ah. Bah, attends, c'est quoi le troisième?
La chimère.
C'est où? Bah non, c'est pas un personnage. Non, c'est un mec. Donc, je trouve ça bien que les deux premiers. Non, je trouve ça bien que les deux premiers films de ce classement soient portés par des personnages féminins qui peut-être sont trop rares aux écrans aujourd'hui, qui sont pas si communs que ça. Et du coup, je trouve.
Magnifique.
Voilà, donc je trouve que rien que pour le personnage de femme.
Par exemple.
Non, alors je ne dirai pas, je ne prononcerai pas là-dessus. Rien que pour ce personnage de femme-là, rien que pour la perfection de son scénario, pour l'idée de scénario dont on n'a pas parlé, mais qui était quand même assez incroyable de avoir un petit garçon qui est aveugle et qui peut parler, mais qui n'a rien vu, et le chien qui, pour le coup, a vu, mais ne pas parler, parce que c'est un chien. Bon, ça, c'est assez incroyable. Et oui, du coup, c'est une belle idée de scénario. Et oui, dire aussi, juste pour finir, que si l'auditeur de ce podcast découvre Justine Triet avec Anatomie d'une chute, comme tu as parlé de Sibyl, Paul, il faut voir Sibyl, il faut voir Victoria, il faut voir la bataille de Solferino, et il faut voir aussi son moyen métrage qui a été très peu vu, qui s'appelle Vilaine, fille, mauvais garçon, et qui est absolument incroyable.
Moi, c'était juste pour te répondre, Léna, parce que justement, moi, ce qui me touche dans ce film, c'est à la fois son côté intellectuel, effectivement, mais moi, je rejoins Paul, c'est son côté émotionnel. Et surtout, tu disais, ça va peut-être pas toucher le grand public, mais moi, ce que je retiens, c'est que dès que je parle de cinéma avec un membre de ma famille, qui est certes sociologiquement très placé, voilà, mais quand on me parle d'un seul film, c'est Anatomie d'une chute. Et moi, mon père, qui est... il fait que parler de ce film, et je sens qu'en fait ça touche les gens justement par son côté émotionnel. Moi, je pense notamment à une scène où en fait vers la toute fin, j'espère que c'est pas trop spoilé de dire ça, mais en fait pendant le procès, le petit garçon donc qui est aveugle se rappelle d'une conversation qu'il a eue avec son papa, donc son papa qui est maintenant décédé, et à la caméra pendant qu'il raconte ce souvenir, le souvenir va nous être montré, mais par contre la voix du papa va être remplacée par la voix du garçon, donc de son fils, qui rapporte les mots qu'il lui a dit. Et juste ça, par exemple, je trouve que c'est des exemples de procédés de mise en scène qui, moi, justement, me font que j'entre énormément en empathie avec ces personnages, qui m'émeut en fait, tout simplement, et qui fait que ce film résonne, et qui pour moi justement est un des films grand public, en tout cas qui peut toucher le grand public de l'année. Et moi, justement, ce que je retiens, c'est que à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui est certes peut-être un peu cinéphile, mais qui ne voit pas absolument toutes les sorties de l'année, ça revient, c'est Anatomie d'une chute tout le temps, parce que je trouve que c'est ça qui a marqué justement, et je trouve que c'est justement, je suis complètement en désaccord sur ça, et je laisse Jeanne parler.
Oui, je rebondis là-dessus parce que dans mes mots d'introduction qui étaient un peu embrouillés, moi je trouve qu'une des raisons pour laquelle je le garde comme le film qui marquera cette année, c'est le succès critique et grand public qu'il a reçu, précisément parce qu'il en ressort avec plus de questions presque que de réponses, que comme tu l'évoques toi Juliette, les personnes qui l'ont vu autour de moi, le débat s'installe très vite. Alors selon toi, elle l'a fait, elle l'a pas fait, elle est coupable, non coupable? C'est un film qui amène des discussions en plus d'être un bijou d'écriture et formellement parlant. Et pour cette raison-là, moi, je ne peux que saluer cette capacité qu'a eu Justine Triet de créer ce film qui puisse être à la fois si pointu et riche et dense et complexe, et en même temps si universellement entertaining.
Donc un message à faire passer à Justine Triet si elle écoute cet épisode. Maintenant, avec tout le succès que tu as eu, maintenant que tu es couverte de gloire, tu peux peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord, envoyer une demande pour peut-être qu'on accepte de faire un interview pour Popcorn. Mais mets les formes et utilise le mot magique.
Non, puis dans une année riche en films de procès et souvent très bons, notamment le procès Goldman qui a été apprécié par l'ensemble de Popcorn. Non, mais plus sérieusement, en vrai, en année riche en films de procès, ce qui est assez rare, c'est d'assez loin esthétiquement le procès qui n'est pas tout le film en fait. C'est à peu près une heure d'un film de deux, est absolument formidablement bien filmé, mis en scène, construit. Et ça, ça mérite d'être remarqué parce que c'est compliqué à mettre en scène un procès en fait. Et non pas à dire qu'elle a compris comment ça fonctionne, mais en fait, elle a compris comment on le montre. Et c'est une réussite comme une autre. Moi, c'est ça qui m'a marqué.
Le mot de la fin, Macron démission, et on espère qu'elle va gagner l'Oscar du meilleur film.
Si je peux rajouter un autre dernier mot de la fin, moi, j'aime ce film aussi parce qu'il a fait découvrir aux Américains Swan Arlo. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des
sex symbole.
Le sexy lawyer. Le sexy lawyer, je cite, voilà.
Prêt ? Nous arrivons à la fin. Vous avez eu notre top 10, mais si vous êtes déçu, si votre film préféré de cette année n'est pas sorti, on vous propose un petit peu de rab. Chacun de nos chroniqueurs vont vous proposer en 30 secondes le film qu'il a le plus aimé mais qui n'a pas été sélectionné parmi les 10 films qui ont été pris par Popcorn. Et je laisse la parole en premier à Costal.
Merci. Alors moi déjà je tiens à préciser que les 5 premiers films de mon classement n'étaient pas en classement, donc vraiment je suis le bisu de cette soirée, j'en suis ravi.
Attends, tu sais que 8 films de mon classement n'étaient pas dans le classement.
Oui, mais voilà, on est deux personnes différentes. Quoi ? Oui, par contre pour les flops je suis gâté, j'en suis ravi, ça c'est la semaine prochaine. Donc mon film préféré de cette année c'était L'été dernier de Catherine Breillat, qui est l'histoire du coup d'une femme qui entame une relation sexuelle avec le fils de son mari qui est mineur et qui vit du coup dans la maison familiale. Et donc, c'est un film qui pose beaucoup de questions, qui dérange beaucoup. Mais c'est un film qui, je trouve, reste vraiment en tête et auquel on repense souvent après l'avoir vu, notamment pour son esthétique qui pose aussi question. Parce que le film est parfois très beau, mais... Mais les meilleurs films, c'est ceux qui posent question. Non, mais il y a des films qui posent pas de questions, comme Une année difficile, et voilà, tout le monde les déteste. Donc, moi, j'aime bien les films qui posent des questions, mais je pense comme tout le monde ici. Non, mais ça pose, enfin, pour le coup, ça reste vraiment en tête, et je pense que ça va me rester, je pense, toute ma vie. Peut-être que ma vie finira après avoir été enfumée dans cette pièce, mais en tout cas, toute ma vie, j'aurais pensé à ce film. Voilà,
c'est agressif, c'est tout à fait inacceptable.
Non, mais donc, du coup, c'est un film qui peut être très très beau, mais d'une beauté parfois très glauque, très malsaine. Et donc c'est un film qui, par sa forme et par son fond, est assez dérangeant, mais bouleversant et passionnant à la fois. Et c'est aussi c'est un personnage de femme ambivalent comme Anatomie d'une chute au final. Donc non mais c'est vrai. Donc les personnages de femmes ambivalentes sont les personnages les plus passionnants à suivre sur l'écran. Et c'est porté par Léa Drucker qui est absolument incroyable. Voilà.
Est-ce que je peux genre juste... Enfin, c'est si tu veux. Mais vas-y. Tu dis qu'il pose des questions. Moi, j'ai pas vu le film, mais j'avoue qu'il me dérangeait grandement, justement. En fait, quelles questions il pose sur l'inceste ? Est-ce qu'il dit... parce que c'est un cas d'inceste dont il est question ici. Enfin, quelles questions on peut poser sur l'inceste ? Et enfin, quel regard il pose ? Enfin, je sais pas. C'est... Parce que tu dis, il pose des questions. Quelles questions ? Ouais, mais en vrai, tu peux en parler un peu.
Non, en fait, ça pose des questions. En sens, c'est pas un... C'est pas un film qui dit est-ce que l'inceste c'est bien ou mal. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, c'est en plus dans la dernière. Non mais voilà. Mais je veux dire, c'est pas justement. C'est un film qui n'est pas problématique qui échappe à ça, qui arrive à échapper à ça.
Non, mais
c'est un film qui, parce qu'il montre quand même une facette. Oui, qui montre la manipulation. C'est-à-dire que le personnage de femme évolue quand même dans la dernière partie comme étant une vraie ordure, une vraie manipulatrice. Oui. Et donc c'est, mais en même temps, t'es confronté, toi, en spectateur, à la fois sur virement situation où au début, tu as l'impression que parfois tu peux la comprendre et ça te fait peur aussi, tu vois. Et tu comprends et, parce que tu sais ce qu'elle vit, tu sais. Enfin, tu connais son histoire et t'apprends aussi à la connaître elle et du coup tu
t'entres en empathie.
Bah oui, t'entres en empathie, tu
donc c'est un peu
oui, juste tu l'as... en fait après l'avoir suivi pendant une heure et demie, t'as l'impression d'avoir une proximité avec elle qui est immense et d'être vraiment de vivre ce qu'elle vit et après ça devient un monstre et du coup tu te retrouves à plus savoir quoi penser et tu te dis mais c'est horrible mais en même temps est-ce que je l'excuse aussi un petit peu je sais pas et enfin du coup c'est juste ça reste en toi quoi. Ce personnage de femme vraiment reste en toi.
Pour juste très rapidement pour enfin moi je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit Costal et en fait par rapport au un peu au procès d'intention qu'on a pu faire à ce film, oui je parle comme une meuf de droite, il y a quoi, et je suis une prouveuse. Non, en fait je trouve que c'est ce genre de film qui te font entrer en empathie et qui montre en fait toute la complexité de ce genre de situations qui sont évidemment moralement réprochables. Enfin c'est pas la question qu'on se pose à la fin, on se dit pas est-ce que c'est bien ou c'est mal, non on sait que c'est mal, mais en fait c'est de montrer la banalité du mal dans le fait qu'en tant que spectateur on en ressort, enfin immédiatement on se dit ah oui mais elle est quand même attachante, elle est quand même, et en fait en y réfléchissant tu te dis mais c'est ça qui se passe dans la vraie vie en fait, c'est que personne n'est tout noir et tout blanc dans ce genre de situation, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça, et en fait c'est parce qu'on trouve des excuses, parce qu'on comprend que ce genre de situation se produise en fait. Sinon ça serait infiniment plus simple si tout était tout noir et tout blanc et s'il y avait juste un grand méchant et une grande victime, et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce film. Mon favori à moi qui n'est pas dans ce top sera donc le film documentaire de Mona Achache qui s'appelle Little Girl Blue, que j'ai envie de défendre parce que je trouve que c'est, j'en ai parlé avant quand je parlais du documentaire de Laura Poitras, et c'est une forme hybride qui m'a semblait hyper original et que moi j'avais jamais vu avant, et j'étais assez décontenancée au début, notamment parce que je n'aime pas Marion Cotillard normalement, mais étrangement il y a quelque chose dans ce film qui peut paraître assez artificiel de base, parce qu'en fait on voit vraiment le travail de la cinéaste dans la manière dont elle dirige Marion Cotillard, qui va en fait donc endosser le rôle de la mère de la cinéaste, qui est le sujet principal du film, et je trouve qu'il y a une réflexion hyper intéressante notamment sur la distance qu'on arrive ou pas à mettre en tant que documentariste quand on choisit de s'attaquer à un sujet qui est aussi proche de nous et dont on n'arrive pas, et quand on n'arrive pas à mettre de la distance, qu'est-ce qu'on peut faire de cette incapacité-là, et c'est pour ça que je trouve que le choix de faire incarner sa mère par une actrice est hyper intelligent, et en fait elle a choisi de ne pas évoquer, enfin de ne pas évacuer tout de suite ce parti pris, mais justement de l'expliquer, de faire comprendre au spectateur pourquoi elle a fait ce choix-là, et donc ce sera ma recommandation.
On va faire donc un double coup de cœur avec Thaïs sur un film qu'on a toutes les deux beaucoup aimé et qui s'est pas retrouvé dans votre top de merde. Pardon. Non, sur un film avec Sandra Hüller qu'on comporte...
Et Suzanne Wolf,
mais surtout Sandra Hüller quand même, qu'on porte très haut dans nos cœurs, tous ici, puisqu'on a encensé Anatomie d'une chute pendant une demi-heure tout à l'heure, donc on va encore continuer à parler de Sandra Hüller. C'est l'histoire de donc Sandra Hüller qui joue la dame de compagnie de Sissi Impératrice, que nous connaissons peut-être tous et toutes, grâce ou à cause de Romy Schneider et d'autres films plus anciens. Et c'est l'histoire de cette fascination, de cette relation d'admiration / amour, relation de domination très toxique qui va s'installer entre cette dame de compagnie et l'impératrice. Et c'est un très bon film. Thaïs, pourquoi est-ce un très bon film ?
Non, j'ai trouvé très intéressant la manière dont elle parvenait à déprendre la mythologie Sissi. Non, mais vous êtes chiant là. Moi, je suis fatiguée et tout le monde me met des bâtons dans les roues. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé parce que.
Ça intéressant de déprendre.
Non, mais parce qu'elle arrive à déprendre Sissi de toute la mythologie autrichienne. Enfin, c'est vrai que quand on pense à Sissi l'impératrice, on pense tout de suite, comme tu l'as dit, Valentine, à Romy Schneider, au château en Autriche, aux balades en Bavière, etc. Et là, on se retrouve à Corfou. Alors, il va y avoir plusieurs balades au cours du film, mais donc dans un espace en fait totalement étranger et distant de la figure de Sissi, et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a tout un jeu avec les décors et les costumes un peu anachroniques qui sont très intéressants. Je pense notamment à une scène où il joue une pièce d'Aristophane. Je ne sais pas si tu
vois.
Il joue Lysistrata. Je crois que c'est
Lysistrata.
Et non, je crois que c'est Lysistrata.
Non, Lysistrata.
Ok.
Je te mets un coup.
Et qui est une scène superbe. Moi, j'ai beaucoup aimé esthétiquement. Et puis, je trouve qu'il y a tout un récit, effectivement, sur cette relation entre les deux. La figure de Sissi est complexe, mais en même temps, pas du tout surtravaillée. Voilà, je sais pas ce que.
Oui, puis un film magnifique, comme tu l'as dit, le fait que ce soit à Corfou déplacé comme ça dans ce au soleil, dans cet environnement très différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Tout ça avec une photographie vraiment magnifique et deux interprétations remarquables des comédiennes. Et voilà, si vous aimez l'allemand, c'est un petit bijou.
Et puis, très bien écrit, je trouve que vraiment l'écriture, elle arrive avec. Des idées, enfin dans les dialogues assez marrantes. Moi, je me suis prise plusieurs fois à vraiment retenir des petites phrases assez malines, assez fines. Et
voir à esquisser un sourire.
Voilà, ça m'arrive parfois.
Yeah.
Quand je suis très fatiguée, je rigole. Voilà.
Moi, je vais vous conseiller un film documentaire aussi, comme ça, pour suivre la ligne de proposition qui a déjà été faite. C'est Marx peut attendre de Marc Bellocchio, qui est sorti enfin cette année au cinéma, mais qui est en fait sorti à Cannes en 2021, où il a reçu une palme d'honneur pour sa carrière cinématographique. Là, il est ressorti parce que sortait en même temps L'Enlèvement, qui est un très bon film aussi, mais peut-être moins intéressant. Et donc, Marx peut attendre de Bellocchio, c'est un film documentaire assez simple, en fait, qui parle du suicide de son frère. Il y a maintenant une cinquantaine d'années, en fait, l'idée qu'il a eue et qui est assez géniale, c'est d'aller interviewer effectivement tous les membres de sa famille, donc ses frères et sœurs, encore en vie, des années après, en fait, et leur demander ce qu'ils pensent des événements. Et finalement, en posant sa caméra comme ça et en les laissant parler d'une tragédie aussi simple, enfin si évidente quand on y repense a posteriori, il arrive à faire émerger toute la honte, toute la violence qu'un événement comme celui-ci peut valoir dans une famille comme celle-là. Peut-être que celle-là est peut-être un peu étonnante, parce que les Bellocchio, c'est bon, il y a le réalisateur, d'autres ont réussi plus ou moins. Finalement, celui qui s'est suicidé, c'était un petit prof de sport, il n'arrivait pas à faire grand-chose. Et même ce titre, Marx peut attendre, en fait, fait référence à ce que disait à l'époque Bellocchio lui-même à son frère. Et en fait, là où je veux en venir. Au-delà de tout ça, c'est non. Que c'est un.
Tu veux dire pourquoi ça m'a pris de
place ? Pourquoi ça m'a pris de place ? Vas-y. Non, mais c'est un très beau film sur comment on peut se regarder soi-même après une chose pareille. Quand on se sent coupable, quand dans une moindre mesure on se sait coupable de quelque chose comme ça, et quand on pense que les gens autour de soi sont coupables, comment on le montre, comment on le filme et comment on travaille avec ça ? Quand, dans une moindre mesure, on a l'impression d'avoir du sang sur les mains. Et c'est un texte qui est très intime, qui est très court, c'est un film qui doit durer une heure et demie, et qui va droit au but sur un sujet qui, bon, peut-être personnellement me touche plus que d'autres, pour des raisons évidentes, mais c'est un très beau film, très, très simple, très direct, en fait, sur des gens très vieux, parce qu'en fait, tous ses frères et sœurs, Bellocchio, il a 80 ans, ses frères et sœurs, c'est la même, ils en ont 70, 80, 90. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de parler à des vieux et de leur demander ce qu'ils pensent d'un truc pareil. Et il arrive, peut-être miraculeusement, à faire sortir une parole qui était inattendue. Donc, je vous le conseille. Malheureusement, il n'est pas dans le top, il n'est plus au cinéma, je suis même pas sûr qu'il y repassera un jour, je ne suis même pas sûr qu'il soit en DVD, j'espère qu'il y est. Voilà. Tout ça pour dire, franchement, allez, trouvez-le d'une façon ou d'une autre, c'est pas mal, c'est assez émouvant, je vous le conseille.
Donc moi, le film dont je voulais vous parler, c'est Déménagement ou Ohikoshi, parce que je parle un peu japonais.
Est-ce que c'est un haïku, ça ?
Oui, de Shinji Somai. Et c'est un film qui est sorti à Cannes et au Japon en 93, mais qui est sorti vraiment en France en 2023, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ren et dont les parents se séparent.
Et par le point de vue de, qui est adopté, donc celui de la petite fille, on se rend compte que ses parents qui sont vraiment des êtres puérils, etc. Et tout est super bien fait, on est emporté par l'histoire. C'est un film magnifique et le réalisateur est d'ailleurs qui est assez méconnu en France et à l'étranger et le réalisateur préféré de Kore-eda et de Hamaguchi. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille, qui laisse emporter par l'histoire, qui était passé du coup au certain regard à Cannes, mais qui était reparti bredouille, et je vous le conseille absolument parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà.
Alors moi, mon film qui était dans mon top et qui n'est pas ressorti dans le top final, c'est Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki, dont on a déjà parlé dans l'émission. Je vois Thaïs qui fait, c'est ça, on avait déjà eu un débat ensemble à propos du même film. Je vais être très courte, mais moi j'aime beaucoup les comédies romantiques en fait, et je trouve que là c'est une qui renouvelle le genre. On a beaucoup déjà parlé dans cette émission de Simple comme Sylvain, enfin de plein de gens qui, enfin de plein de films qui interrogent ça, mais je trouve que ce film là il a une espèce de comment dire, d'humeur, de quelque chose de presque maussade, et de montrer aussi différentes facettes de l'amour qui sont d'habitude pas montrées, et comment ça peut être fade et pourtant dans un quotidien fade du coup beaucoup plus joyeux qu'on le pense. C'est un peu flou, mais globalement je sais pas, ça se passe dans les pays dans un pays du nord, des personnes qui sont globalement exploitées globalement par le capitalisme, et je trouve que c'est une réflexion qui est mine de rien intéressante de lier amour et capitalisme, et comment le capitalisme peut, enfin l'aliénation par le travail, pour reprendre, faire un lien avec Marx peut-être, enfin ça n'a aucun rapport, c'est vraiment juste Marx.
J'ai uniquement cru qu'au stade que t'allais prendre le marteau.
Et la faucille.
Non, mais comment l'aliénation par le travail peut rendre nos vies plus maussades, et comment l'amour peut pâtir de tout ça, et voilà, c'est, je trouve, un très beau renouvellement du genre, avec surtout une super chanson qui est chantée par un groupe qui, donc, dont je ne comprends pas le nom, mais qui veut littéralement dire les Spice Girls, et je trouve ça très drôle.
Moi,
voilà.
J'écoute leur chanson en boucle.
Oui, moi aussi.
Donc pour moi, le top qui n'est pas dans les tops, c'est Les Colons de Felipe Gálvez Averle, qui est donc un film latino-américain qui parle de la conquête de la Terre du Feu fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Et c'est un film que j'ai adoré, en fait, non seulement dans sa construction plastique, qui, ça m'a beaucoup fait penser au cinéma latino-américain dans son ensemble, avec une utilisation de tableaux, en fait, pour construire l'histoire, avec une forte présence de la beauté des paysages, mais c'est surtout tout son discours sur la construction de l'altérité, sur qui est le monstre, parce que voilà, c'est un film qui parle d'un génocide, et que j'ai trouvé très profond, très, très horrible sur certains aspects, mais en même temps, tout ce qu'il fait, c'est en fait te montrer un peu ce qui s'est passé pendant cette colonisation, ce génocide. Et donc, tu es confronté à la réalité et pas confronté à un « Oh, c'est très mauvais, regardez, c'est très triste. » Et moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, peut-être par des inclinations personnelles ou par un nationalisme mexicain, mais je le conseille. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce top des tops.
Donc ici Jeanne, et le coup de cœur que j'aimerais faire, qui n'a pas pu apparaître dans mon top parce que c'est un film qui est sorti en 2022 officiellement, mais en fait moi je l'ai vu en 2023 parce qu'il est projeté dans des espèces d'avant-premières, et en fait finalement il va sortir officiellement en France en 2024, donc c'est un peu un teaser aussi, mais comme je pense qu'il va passer dans très peu de salles, c'est le moment ou jamais. C'est Apollonia, un documentaire de Léa Globe qui raconte l'histoire de Apollonia Sokol, qui est une peintre depuis son entrée aux Beaux-Arts dans les années 2010 jusqu'à son arrivée à la Villa Médicis quelques années plus tard, et ça suit vraiment toute sa trajectoire de jeune peintre qui vit une vie assez bohème, qui fait des rencontres assez extraordinaires, et ce qui devait commencer comme une espèce de portrait fait par une de ses copines qu'il a choisi pour un sujet dans son école de cinéma va finir comme une grande fresque qui va durer 13 ans. Et donc c'est absolument passionnant, c'est extrêmement émouvant, et plus qu'un film sur la peinture, c'est vraiment un film sur la carrière d'artiste au 21e siècle, en particulier dans ces années 2020. Donc je ne peux que vous encourager à aller le voir, c'est vraiment remarquable. Moi, j'y pense beaucoup et je vais y penser encore beaucoup très longtemps. Donc, j'en dis pas plus, mais j'espère que quand il sortira dans deux cinémas à Paris d'ici quelques semaines en février, vous serez nombreux à aller le voir.
Du coup, moi, le film que je mets dans mon top et qui n'a pas du tout été cité, c'est Killers of the Flower Moon. Bon, tout le monde ou beaucoup de gens l'ont vu. Il est énormément nommé aux Oscars actuellement. Globalement, ça a été présenté à Cannes hors compétition et ça adapte les écrits de David Gran. Et donc, ça se passe en 1920 dans l'Oklahoma. Et pour moi, c'est un film qui est un modèle de cohérence. Bon, outre le fait que Martin Scorsese soit encore avec un casting de haut vol, bon, ça, pourquoi pas, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est un film qui propose une grille de lecture multiple, selon moi, sur la vampirisation d'une société, sur la fin d'une nation, d'une culture et autres. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement bien mis en scène. Il y a pas mal de parallèles à faire avec la mise en scène de Midsommar, notamment, de Ari Aster. Et Martin Scorsese, il fait explicitement référence, notamment dans la construction des plans de paysages, etc. Donc je pense qu'il y a énormément à y voir, et en plus c'est un film qui fait 3h30 et qui n'a pas été coupé par des besoins de... Enfin, qui en fait se présente en 3h30 et qui est très long, et je pense que le réalisateur avait besoin de 3h30 pour vraiment montrer la chute de cette nation-là et ne fait pas d'impasse sur ces minutes-là. Donc voilà.
Et d'ailleurs, si je peux ajouter, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis très malheureux qu'il n'ait pas fini dans le top, c'est tu dis que c'est un film très long, mais en fait c'est pas un film qui a l'air très long. Moi, je trouve que c'est la plus grande réussite du film, quoi qu'on pense de son propos, quoi qu'on pense de son rapport au sort des natifs américains. C'est un film qui a l'air de durer 2 heures alors qu'il en dure 3h30. Et ça, c'est pas juste Martin Scorsese, on la connaît.
C'est Lélie du cinéma pâté.
C'est aussi l'élite du cinéma pâté, mais c'est aussi le travail. Je tiens à dire que tu es en train d'invisibiliser une des plus grandes monteuses de l'histoire du cinéma, mais tu fais ce que tu veux, Jeanne. C'est le travail de Thelma Schoonmaker, qui depuis 30 ans à peu près travaille avec Scorsese, et c'est effectivement un miracle que le film soit aussi tendu qu'il est, alors qu'il dure aussi longtemps, alors qu'il est aussi procédurier, alors qu'il est aussi sinistre. Finalement, on s'emmerde jamais, et voilà, bah là-dessus je te rejoins.
Moi j'irai très très vite sur un film dont on doit sans doute des excuses, parce qu'il il a été descendu avant qu'il soit sorti pour des raisons qui dépassaient complètement sa volonté. C'est La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung, qui est un film qu'on a tous détruit parce qu'évidemment il a pris la place de Anatomie d'une chute pour la délégation française aux Oscars, et qui n'est bien sûr pas du tout du fait du réalisateur ni de l'équipe du film, mais d'un choix politique des personnes qui ont choisi du coup ce film là. C'est un film qui s'est fait descendre alors qu'il a bien sûr pas à rentrer en compétition face à Anatomie d'une chute. Il ne joue pas du tout dans la même catégorie, et pourtant c'est un film qui a été, je pense honnêtement, ma plus grosse surprise, parce que j'attendais à en être extrêmement énervé, agacé, et c'est un des films qui est le plus beau de l'année, je pense, qui livre une prestation d'acteur complètement hallucinante, et qui sur un message qui aurait pu être tout con sur la cuisine, en fait, arrive à tisser des liens incroyables sur ce qu'est le cinéma, sur ce qu'est les relations amoureuses, sur ce que sont les relations de pouvoir. C'est un film brillant, plus accessible qu'il n'en paraît, et que je conseille vraiment le visionnage. Et je vous renvoie vers l'émission qu'on avait enregistrée. On avait été à peu près tous favorables. On arrive enfin à la fin de cette émission qui aurait été très, très laborieuse à enregistrer. Sachez qu'à l'heure où je parle, on n'a toujours pas enregistré les flops. Qui sait si on enregistera des flops? Qui sait si on fera les pop-corns encore après?
Non, cette année, on ne fait pas de flops.
Voilà, voilà. Bref, Thaïs ne reviendra sans doute pas dans cette émission.
Mais on peut encore critiquer Babylone.
En tout cas, voilà, il nous restera encore des cartouches peut-être à lâcher dans notre épisode flop. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite une très bonne année de cinéma 2024. On vous souhaite d'être plus attentifs et plus assidus que les chroniqueurs qui actuellement sont complètement dissipés et n'écoutent rien à ce que je dis à ma conclusion. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour les premiers épisodes courant 2024. Dédicace aux voisins de Paul qui nous ont supportés, et à très bientôt.
Au revoir.